Bonsoir. 1, 2, 3, ça fonctionne. Bonsoir à toutes et à tous. Donc voilà, mais merci d'être venus ce soir à l'espace Mendès France. Donc juste pour vous rappeler, en ce moment c'est la fête de la science. Donc juste, ça a commencé donc déjà ce week-end. Ça se prolonge jusqu'au 14 octobre. Donc profitez-en des événements à Poitiers, bien sûr, mais aussi au niveau national et plus particulièrement dans la région. Donc n'hésitez pas à consulter notre programme qui doit être en ligne également. Donc ce soir, on parle, c'est un débat, une table ronde autour de l'Anthropocène en question. Voilà. Et donc on a invité 3 géologues pour qui nous le disent, leur point de vue sur cet Anthropocène. On en parle beaucoup à l'heure du réchauffement climatique, voilà, l'impact de l'homme sur la planète. Doit-on parler d'Anthropocène? Donc c'est la question qui va être présentée ce soir et débattue. Donc si vous avez des questions après, les interventions, n'hésitez pas à les poser. Donc, je vais commencer, je ne sais pas, soit par notre invité qui vient de Paris, donc Patrick de Wever, qui est donc professeur au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Il est géologue, il est spécialiste des radiolaires, et c'est quelqu'un qui a fait des ouvrages, qui a publié beaucoup de publications scientifiques. Et donc, il va parler avec, je prends dans l'ordre, donc Jean-Renaud Boisserie, qui dirige le laboratoire Paléoprime à l'Université de Poitiers. Donc, si je ne me trompe pas, paléontologie, évolution, paléo-écosystème et paléoprimatologie. Voilà, Paléoprime. Et pour l'accompagner également, donc Marion Corbet, qui est doctorante dans ce même laboratoire et qui est géologue aussi. Donc, je vous laisse tout de suite la parole.
Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je ne vous apprends rien si je vous dis que nous sommes en crise. On est en train de vivre une crise environnementale et biologique qui est sans précédent, compte tenu de la courte durée d'existence de notre espèce. Et vous n'avez pas fini d'entendre parler, car chaque mois, chaque semaine, vont sortir et sortent des dizaines d'articles scientifiques qui viennent corroborer ce constat. Et ce ne sont pas que des mots. Les archives climatiques dans lesquelles enquêtent les scientifiques permettent de mesurer des tendances au long cours, mais également des fluctuations à plus courte échelle. Et la tendance au réchauffement actuel montre que nous sommes en train de sortir assez rapidement des fluctuations normales connues, au moins pour les deux dernières périodes géologiques auxquelles nous nous comparons, à savoir le Pléistocène et l'Holocène, soit les 2,5 derniers millions d'années. Les fluctuations mesurées sont par exemple celles de la quantité de gaz carbonique et de méthane dans l'atmosphère, les fluctuations de la température de l'air et de l'eau, les variations du niveau des océans, mais aussi la quantité de sédiments drainés par les grands fleuves dans les lacs et les océans et la qualité de ceux-ci. Une autre mesure importante de l'évolution actuelle de notre environnement n'est pas physique, mais biologique. Il s'agit du taux d'extinction des espèces. Sa cause principale, c'est la destruction des habitats. 80 000 km² de forêts sont détruits chaque année, soit environ la superficie de l'Autriche. Cette destruction d'habitats spectaculaire ne doit cependant pas éclipser des phénomènes moins connus, moins spectaculaires, qui sont les remplacements anthropologiques d'espèces, par exemple les déplacements de faune ou de flore qui ne sont pas dans l'environnement naturel. Vous n'êtes pas sans savoir que des espèces opportunistes qui sont dans un environnement dont elles ne sont pas originaires, mais dans lequel elles se plaisent, vont avoir un impact extrêmement important sur les faunes qui préexistaient. Donc l'ensemble des phénomènes que je viens d'évoquer engendre des extinctions d'espèces et la disparition de quantité d'individus à une vitesse incroyable. On parle d'un taux de 100 à 1000 fois plus important que la disparition de fond, c'est-à-dire les extinctions d'espèces normales lors de la vie, de l'évolution d'une espèce vivante sur cette planète. Ce taux très rapide fait dire à beaucoup de scientifiques que nous sommes face à une sixième extinction de masse, d'ampleur comparable aux 5 précédentes. Juste pour rappel, la dernière a rayé les grands dinosaures, de la carte. Tout comme nous, la société dans son ensemble commence à se poser des questions sur ces changements environnementaux. Et pour cause, cette crise environnementale est pour nous le plus important défi que nous avons connu lors des 10 derniers milliers d'années. Mais est-ce que ces changements doivent être marqués, doivent être statués sur l'échelle des temps géologiques ? C'est la question qu'on va se poser ce soir et c'est la question que se posent beaucoup de géologues. Un groupe de travail qui est composé de stratigraphes a même proposé, de climatologues, de géochimistes, d'historiens, donc pas uniquement des stratigraphes, a même proposé qu'on nomme cette nouvelle période géologique l'Anthropocène, soit littéralement le nouvel âge de l'homme. ce discours est très médiatique. Il touche de nombreuses communautés scientifiques. Donc nous avons voulu amener ce sujet sur le tapis et en discuter la pertinence avec vous, avec les méthodes de la paléontologie et de la géologie. Donc nous serons trois ce soir pour en parler. Je vais passer la parole à mon collègue Patrick De Wever qui va se présenter.
Bonsoir, Patrick De Wever, on m'a présenté déjà. Je suis du muséum, pas parce que je suis vieux, mais parce que j'avais choisi d'aller au muséum. Et je suis géologue d'abord, micropaléontologue et spécialisé sur un groupe de plancton fossiles qu'on appelle les radiolaires, qui sont tout simplement merveilleux. Je me suis intéressé le plancton a cet avantage de traduire bien de montrer les relations entre l'environnement et puis les enregistrements au cours du temps. Donc j'ai été amené tout doucement à m'intéresser à ce qu'on appelle peut-être un peu pompeusement les relations biosphère-géosphère. Bref, les relations entre la vie et la Terre. Donc, comme géologue de terrain aussi, j'ai fait de la cartographie. Donc, on s'intéresse obligatoirement à la stratigraphie. Donc, j'étais aussi à un moment stratigraphe, puisque comme micropaléontologue, on doit établir des échelles pour s'y retrouver, des échelles de temps. Et donc, on s'intéresse aux successions des couches, aux fossiles, à la vie, à la Terre. Voilà.
Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Jean-Renaud Boissery, je suis paléontologue et je fais un métier qui est radicalement différent de celui de Patrick De Wever parce que je travaille sur des animaux beaucoup, beaucoup plus gros et que donc on a des méthodes un petit peu différentes à ce niveau-là. Je suis à la base spécialiste des hippopotames et je m'intéresse d'une manière générale à la faune africaine et à l'évolution de la faune africaine. Dans cette faune africaine, on trouve un petit groupe qui nous intéresse un petit peu plus particulièrement, qui est, en dehors des hippopotames évidemment, qui est celui des hominidés, sont nos ancêtres. Et même si je travaille sur des objets qui sont très différents, je me pose un peu les mêmes questions sur les relations entre l'évolution de ces organismes et de ces faunes, et l'évolution des environnements, des paramètres abiotiques, c'est-à-dire physico-chimiques de l'environnement, et en fait vraiment des interrelations entre ces différents aspects et la manière dont tout ça s'organise. C'est vraiment au cœur de mes préoccupations. Donc, de ce point de vue-là, je pense que l'Anthropocène, c'est quelque chose qui est fondamentalement amené à nous intéresser, même si on ne travaille pas forcément sur cette époque-là. Et puis je trouve que c'est intéressant que des paléontologues parlent sur ce sujet-là, parce qu'ils ils ont eu finalement assez peu la parole. Ça a été des collègues moins paléontologues, plus géologues. Néanmoins, je pense qu'un paléontologue, c'est également un géologue. Puisque nous sommes à la croisée des sciences de la Terre et des sciences de la vie pour faire ce que nous faisons. Voilà.
Et donc, moi, je suis Marion Corbet, doctorante au laboratoire Palévoprime à Poitiers. Et je travaille sur les reconstitutions paléo-environnementales dans un bassin sédimentaire qui est au sud de l'Éthiopie. Et si je propose des reconstitutions, c'est parce que justement on a des questionnements autour des faunes fossiles et on essaye de savoir si certains changements morphologiques ou certains changements de composition faunique sont liés à des changements climatiques. Donc mon travail est aussi à l'interface entre la géologie et les sciences de la vie, même si ce n'est pas moi qui traiterai ces données. Alors, pour ce qui est de la suite de la soirée, Patrick va commencer par nous présenter rapidement la construction de l'échelle des temps dans la discipline de la géologie. Ensuite, Jean-Renaud va présenter les aspects qui concernent l'évolution biologique. Et Patrick reprendra la parole pour développer le problème posé par la définition d'une nouvelle division géologique sous le nom d'Anthropocène. Chaque intervention va être suivie de quelques minutes de questions. Donc, n'hésitez pas à intervenir. Et la soirée en elle-même sera clôturée par un débat où j'espère que vous participerez tous. Je vous remercie.
Je vais prendre celui-là, c'est ça ? Bonsoir, donc je débute. Il m'a été demandé de présenter d'abord l'échelle des temps géologiques. Je vais essayer de passer moi-même. Alors, quand on parle d'échelle des temps géologiques, c'est parce qu'on s'intéresse à un temps qui est tout à fait inhumain, hein, c'est le temps de la Terre. Et le temps humain est simple et compréhensible quand il est court, mais il devient flou et difficile d'accès quand il est long. Si je vous demande que faisiez-vous hier à cette heure-ci, vous allez répondre assez précisément à 10 minutes près. Si je vous dis que faisiez-vous il y a un an à cette heure-ci, vous allez commencer à réfléchir. Et puis si je vous dis que faisiez-vous il y a 10 ans, vous allez regarder votre voisin en disant, ben attends, il y a 10 ans, tu sais, c'est quand le voisin avait eu accident. Non, c'était 3 mois avant, parce que c'était avant de partir en vacances. Ah oui, c'était 3 mois avant. Et bref, on a besoin de repères. Et donc, pour s'y retrouver dans le temps, ben les géologues aussi, pour l'histoire de la Terre, ils ont besoin de repères. Alors, ces repères, par exemple, ben c'était le Mont Sainte-Hélène en 1980. Vous voyez ici, avant l'explosion et après l'explosion. Voilà, il y a là quelque chose qui sert de repère. Il y a le Mont Sainte-Hélène avant et il y a le Mont Sainte-Hélène après. Alors, de même, sur la côte normande, quand on se promène sur la côte, si on voit ce blocos qui est perdu là, sur la plage, qui a l'air un peu ridicule là, sur son petit socle, il n'est pas besoin de discours pour expliquer que ça n'a pas été construit le mois précédent ou dans la décennie précédente. On voit qu'il y a du temps qui s'est passé parce que mentalement, on reconstitue, on sait que c'était construit dans les dunes. Donc, on reconstitue une dune et on se dit qu'il y a du temps qui s'est passé. C'est-à-dire que voilà, c'est un blocos qui a une position dans l'espace et c'est cet espace que nous, on interprète en termes de temps. Vous voyez, déjà, ce n'est pas si simple. Alors, on dit, ah oui, mais ça, c'est vrai pour les blocos. Ben, je ne sais pas combien j'ai un quart d'heure, je crois. Enfin, d'après ma montre, là, il est moins le quart. Non, ma montre ne me montre pas l'heure. Elle me montre un déplacement temporel, un déplacement spatial. Ce sont les aiguilles qui bougent, c'est de l'espace. Et c'est moi qui interprète ça en termes de temps. Donc, vous voyez, déjà, le temps, ce n'est pas directement accessible de l'espace. Parce que si ma montre ne fonctionnait pas de façon régulière, je n'aurais pas le droit de l'interpréter en termes de temps. C'est parce que j'infère qu'elle fonctionne de façon parfaitement régulière que j'ai le droit de l'interpréter en termes de temps. Vous voyez ? Donc le temps, il n'est jamais accessible directement. On doit toujours faire appel à autre chose. Donc le temps, on peut le repérer par le repère, par l'accident, par la durée ou par l'âge. Alors même l'âge, on pourra peut-être en revenir aux questions tout à l'heure, parce que nous, l'âge, ça nous paraît une notion de temps évidente, et pourtant, c'est un temps qui est typiquement judéo-chrétien. Les civilisations orientales et extrême-orientales n'ont pas du tout cette appréhension de l'âge, parce que si on parle de l'âge, on se dit, ben oui, il y a eu un début, et on en est où par rapport à ce début ? Hein, c'est ça, l'âge. Alors que dans les civilisations moyennes, du Moyen-Orient et d'Extrême-Orient, on se souvient tous à l'école primaire, je crois, on parlait des crues du Nil. C'était des crues, c'était un peu avant la crue, c'était pendant la crue, c'est après la crue, puis c'est à nouveau un peu avant la crue. Bref, c'était un temps cyclique. Les hindous, c'est le même, ils ont des cycles de dieux qui font à peu près 10 000 ans. Et donc, ils s'inscrivent toujours dans un temps qui revient. Le temps cyclique, ben, c'est un temps cyclique, ce n'est pas un temps de l'âge. On ne se pose pas la question de l'âge. Donc, ben, toutes ces civilisations-là ne se posaient pas du tout la question de l'âge de la Terre. Donc, vous voyez, le temps, déjà, c'est une approche qui est assez fortement culturelle. Alors, les phénomènes visibles laissent des traces qui nous permettent de reconstituer une histoire. Donc, vous voyez, les moins importants, c'est des traces, donc ce n'est pas le temps lui-même, ce sont des traces. On reconstitue, il y a interprétation, et on fait une histoire. C'est une démarche, c'est tout à fait la démarche des historiens. Alors, en certains endroits, les superpositions de couches, des couches de terrain, correspondent à des dépôts d'âge différent. Ça a été compris vers le XVIIIe siècle. Et puis certaines couches, en certains endroits, servent de référence. Les gens, les géologues, quand ils se rencontraient, ils disaient, c'est les couches qu'on a vues à Étampes. Je vous dis Étampes parce que j'habite la région d'Étampes. Et donc après, ils ont dit, les couches d'Étampes, c'est quand même pas la propriété de la ville. Donc, puis on parlait latin. Donc ils ont dit, c'est les couches du Stampien. Et puis ceux qui travaillaient sur Paris, Paris, c'était Lutetia. Donc ils disaient les couches du Lutetien. Donc ça a servi de référence, parfois à valeur locale, mais certaines à valeur nationale, voire même internationale. Et donc ces localités, qui étaient des repères de temps, je rappelle toujours, c'est ça notre quête, ces couches de référence, ce sont des étalons de temps, comme il y a le maître étalon qui est au pavillon de Breteuil à Sèvres, il y a des couches de terrain qu'il fallait laisser sur le terrain parce qu'elles témoignaient d'un enregistrement du temps. Et ça, ces étalons, ça s'est appelé stratotype. Alors le mot paraît compliqué, mais c'est des types de strates, des types de couches. Des couches. Alors cette notion avait été proposé par Alcide d'Orbigny, qui avait dit « les couches de terrain représentent du temps ». Et alors, il avait repris cette idée de Cuvier, qui avait parlé de révolution du globe. Alors, parfois, Quand on était étudiant, je me souviens, on disait que Cuvier était quand même un peu simplet, et il voyait des changements de faune dans l'enregistrement des fossiles qu'on trouve dans les diverses couches qui sont superposées. On voyait qu'il y avait toujours à peu près les mêmes fossiles, puis à un moment, d'autres fossiles, et puis lui, il avait parlé de révolution. Alors on dit, bon, c'est un peu simpliste comme idée, révolution, c'est oublier le contexte historique. Là aussi, quand on fait de la science, il ne faut pas oublier le contexte historique. Parce que lui, c'était au moment de la Révolution française, et le mot révolution, c'était un mot banal, très, très banal, donc il parlait de révolution. Et Dorbigny a plutôt utilisé le mot de catastrophe. Hein. C'était, alors de même, catastrophe, pourquoi ces changements sont forcément catastrophiques? C'est parce que, là aussi, contexte historique, à l'époque, on admettait que la Terre avait 6000 ans, ou un petit peu plus, à peine plus. Et il avait observé que rien que dans les couches, les parties de couches où il y avait des fossiles, qui est toute petite partie de l'ensemble de l'échelle, mais là, il y avait 23 ou 24 changements. Comme l'ensemble fait à peu près 6 000 ans ou 10 000 ans, mais là, ça doit faire que quelques milliers d'années, donc forcément, il est obligé de considérer que ce sont des catastrophes. Nous, aujourd'hui, on est malins avec nos milliards d'années. Nos catastrophes, nos révolutions deviennent un peu des évolutions. Toujours est-il que donc, par exemple, ne serait-ce qu'en France, il y a à peu près une quarantaine d'étalons de temps qui sont inscrits dans l'échelle des temps géologiques au niveau international. Mais je vous l'ai dit, ce stratotype ne peut pas être enfermé dans un pavillon de Breteuil, comme le maître, et il doit rester sur place dans la nature. Aussi, convient-il de le préserver? Et on arrive forcément à la notion de patrimoine géologique. C'est la démarche que moi j'ai suivie, hein, parce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, maintenant je suis complètement dans le patrimoine géologique, justement parce que j'ai été sensible à cette affaire. Alors, sauvegarder du patrimoine, c'est facile, mais allez dire au maire de la commune que vous habitez, ces couches-là, vous savez, il faut les préserver parce que c'est du patrimoine géologique. Il va dire, mon garçon, t'es bien gentil, mais tu sais, ça, nos grands-parents les connaissaient, ces trucs-là, ça n'a jamais bougé, ça n'a rien d'intéressant. C'est ce qui m'est arrivé dans mon petit village, c'est un stratotype, c'est le hasard. Et j'avais essayé de convaincre Madame la maire que ça valait le coup de la conserver. Alors, il y a eu un petit grillage que j'allais régulièrement réparer, mais franchement, alors j'ai dit, il faut expliquer aux gens. Donc, j'avais fait un petit article dans le journal, mais franchement, ça n'avait servi à rien. Puis un jour, elle m'appelle, elle me dit, mais vous avez parlé de la couche, vous savez, là où le truc à lapin, là, le sable à lapin, que c'était important, mais pourquoi c'est important? Je lui ai dit, mais c'est un stratotype, madame, vous comprenez, etc. Bon, ça ne servait à rien. Elle dit, non, mais ça doit être intéressant parce que ça fait plusieurs week-ends où on voit des bus de Hollandais ou d'Allemands qui viennent et qui vont chercher là des choses. Je lui ai dit, oui, c'est un stratotype, madame, c'est une référence internationale, il vient chercher une référence internationale. Ah oui, mais ils viennent carrément avec des brouettes, hein, ils emmènent. J'ai dit, ouais, ils emmènent, c'est une référence internationale. Mais il ne faut pas les laisser faire, c'est à nous ce truc-là. Vous voyez, ça c'est première chose intéressante quand vous voulez convaincre quelqu'un. N'utilisez pas vos arguments, utilisez les arguments de l'extérieur, ça a toujours beaucoup plus de poids. Et là, elle m'a demandé, elle m'a proposé, elle a eu une bonne idée. Elle dit, et si on protégeait un peu mieux, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, bonne idée, madame, ça c'est vrai, ça c'est... Bon, je suis déjà à moitié, ouais, on est bientôt mort. Donc, alors, j'ai parlé de Étampes, le Stampien, puis il y a Barème, hein, c'est dans le midi de la France, Barème, Barémien. Alors, vous voyez, je me suis arrêté pour faire la photo, pour montrer aux étudiants, Barème, Barémien, c'est le nom d'un étage géologique. Donc, bon, je me suis arrêté là, d'abord, on prend la photo, on se fait enguirlander par la famille, parce que tu te rends compte, tu t'arrêtes sur la route, on va avoir un accident, etc. Bon, ça fait rien. On y va quand même à Barème, on est en vacances. Alors, on explique qu'on est en vacances, et puis on va sur la place du village. Et voilà, c'est un petit village, hein, donc voilà la grande place. Avec son parking, ses commerces. Et puis là, tiens, il y a une plaque. Alors, c'est une plaque qui est sur la place du village, à la fontaine aux ammonites, le barémien. Ah, tiens, dès le 19e siècle, les géologues, blabla, il y a des fossiles, tout ça, ça les intéresse. Et c'est riche en fossiles, ils le baptisent alors du nom de lieu, le barémien est né. Magnifique exemple, ça y est, les gens du village, là, ont compris qu'ils avaient une référence internationale chez eux. Et ils le mettent en valeur. Alors, ils le mettent tellement en valeur que, bien sûr, vous allez vous promener là, sur le bord de la route avec un marteau. Très vite, quelqu'un va s'arrêter en disant « Monsieur, on n'a pas le droit de casser des cailloux ici, hein. C'est une réserve. » Ils ont tout à fait gagné. Et alors, bien sûr, les ammonites, ils les mettent partout. On les a dans la fontaine, vous voyez, dans le village, il y en a aussi plusieurs. Vous voyez, c'est ce genre... Alors ça, c'est un moulage, mais d'une ammonite qui existe vraiment dans la région. Alors, il y en a tout plein. Et vous savez, ça fait un peu... C'est utilisé comme sculpture à l'entrée de ville. Vous voyez, certaines villes, à l'entrée, on voit qu'il y a des grands machins, on ne sait pas ce que c'est, mais on voit que c'est voulu, ça s'appelle de l'art. Mais là, ils n'ont pas utilisé l'art, ils ont utilisé les fossiles que l'on trouve sur place. Alors, il y en a partout, vous voyez, là, à côté de la fontaine. Ici, c'est juste devant la mairie, on a mouillé un peu pour que ça se voit mieux. Et ils vont même plus loin, parce que voilà la maudite de la mairie ici. Et voyez, là, une boulangerie. Et voyez, dans la boulangerie, même les miches de la boulangère ont une forme d'ammonite. Donc voilà, ils se sont vraiment appropriés, ils ont rentabilisé ça. Bon, ailleurs, de façon plus modeste, voilà, c'est sauvegardé. Ça, c'est le site de mon petit village dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez, c'est préservé, c'est conservé, c'est protégé. Alors, les stratotypes. Je vous ai dit, c'est stratotypes. Ce dont je viens de parler, c'était les stratotypes de couches. C'est un ensemble de couches de terrain qui représentent du temps. Ça s'appelle des stratotypes de couches. Mais après, on s'est dit, mais les couches, ah, c'est pas terrible, il vaudrait mieux avoir quelque chose de plus précis. Et on est arrivé à parler de stratotypes de limites. C'est-à-dire que là, ça définit une durée de temps, alors quelque chose, ici, c'est quelque chose de beaucoup plus précis. C'est déterminé, non plus par une durée, mais par un événement et un âge. Mais cette limite, en fait, c'est simple de loin, mais c'est loin d'être simple, parce qu'après, il faut se mettre d'accord sur quel type de limite on va utiliser. Alors justement, pour utiliser les limites, ben, il faut pouvoir dater. Et pour dater, on date par les fossiles, mais ça, on vous en parlera, je présume, juste après. Mais on peut dater aussi par des méthodes dites de radiochronologie. Alors, méthode de radiochrono, c'est quoi ? Avec les éléments radioactifs. Pour faire simple, voilà, on a, ici, ça représente un minéral, une roche. On a des éléments rouges qui sont instables et qui deviennent des éléments jaunes. Comme c'est instable, plus le temps passe, moins il y a d'éléments rouges, parce que ces éléments rouges se sont transformés en éléments jaunes. Donc, moins il y a de rouges, plus il y a de jaunes. Donc, il suffit de mesurer le rapport de l'un sur l'autre pour avoir l'âge. Vous voyez ? J'ai bien dit, on mesure le rapport de l'un sur l'autre. On mesure un rapport d'éléments chimiques. On voit souvent écrire, on a mesuré un âge. Non, on ne mesure pas un âge. On mesure un rapport, les géologues disent isotopique, un rapport d'éléments chimiques qu'on interprète en termes d'âge. C'est très important parce qu'une roche qui n'a pas une vie très compliquée, c'est facile à interpréter, on peut tout de suite en déterminer l'âge. Mais par contre, une roche qui a eu un événement un peu compliqué, qui s'est fait broyer par exemple, ben, il se peut que dans ce système ici, le bocal, que j'ai représenté un peu fermé, soit cassé. Auquel cas, ben, il se peut que certains éléments jaunes soient partis. Donc vous voyez, donc, le rapport qu'on va mesurer ne traduira plus exactement l'âge. Voilà, donc encore une fois, on mesure des éléments chimiques que l'on interprète en termes d'âge. Et là, l'avantage d'avoir des âges chiffrés, c'est qu'on peut interpoler, c'est qu'on peut extrapoler, hein, on peut relier des points, on peut faire des courbes, mesurer des vitesses. Donc, on peut recomposer un temps continu, alors que tout à l'heure, c'était un temps discontinu, et ça donne accès à la vitesse des phénomènes. Donc, avec le temps géologique, on parle souvent de l'échelle du temps, mais donc on peut utiliser l'espace qui existe entre les barreaux, c'est les stratotypes de couches, ou la position des barreaux eux-mêmes, c'est les stratotypes de limites. Donc, ben, pour le temps géologique est immense, et pour s'y retrouver, il faut établir des subdivisions qui soient à la fois globaux et synchrones. Alors, comment ça marche ? Alors, ça, c'est fait par, c'est pas lui ou moi qui avons décidé que ça nous plaît et que ça marche comme ça. C'est comme toutes les commissions internationales, ça prend du temps pour avoir une loi au niveau international. Et donc, il y a un certain nombre, il y a des procédures très strictes. Et par exemple, le quaternaire a été discuté pendant 27 ans. Il existait, il avait été précisé, puis après ça a été rediscuté pendant 27 ans. Donc ce n'est pas 27 mois, ce n'est pas 27 jours, c'est 27 ans, parce que les travaux scientifiques ben, sont généralement un peu longs. Et alors on arrive à des échelles de temps, alors c'est représenté comme ceci, vous voyez ici, aujourd'hui on est ici, et plus on descend, plus c'est vieux. Et puis par exemple, alors c'est pour vous montrer que ces échelles de temps, ce sont des chartes, mais des chartes ce n'est surtout pas statique. La stratigraphie est une science, c'est-à-dire que ça évolue. Par exemple, vous regardez... Vous le voyez peut-être pas bien, mais vous le devinez ici. Il y a le quaternaire, c'est en anglais, mais enfin bon, ça se lit quand même. Le quaternaire, vous voyez, la limite, la base, elle n'est pas bien déterminée. On dit c'est à la base du Gélasien ou c'est au sommet du Gélasien, on ne sait pas. C'était en discussion et ça, c'est en année 2004-2008, je ne sais plus. 2004. Bon, après, les travaux ont avancé et puis ça s'est fixé. Vous voyez, le quaternaire ici, il est fixé cette fois. Il est à la base du Gélasien. Et ça, c'est une carte de 2007. Et puis, ben, les travaux avancent. Donc, dans le quaternaire, il y a le Pléistocène, il y a l'Holocène, qui n'est pas subdivisé parce que c'est quelque chose de très court. Et vous voyez, ça, c'est une échelle plus récente. Hein, c'est l'échelle du mois d'août de 2018. Mais cette fois, l'Holocène est subdivisé en un certain nombre de subdivisions. On va passer les noms. Alors, comment ça, la procédure, laquelle est-elle ? Mais d'abord, il y a un groupe de travail qui fait une proposition de... le positionnement d'un point. Quand ils se sont mis d'accord, ils soumettent leur travail à une sous-commission. Et puis cette sous-commission, hein, il travaille, il réfléchit, enfin, il y a des votes, etc. Si, quand ils se mettent d'accord, c'est soumis, la proposition de la sous-commission est soumise à la commission, et puis c'est soumis au comité exécutif, et puis seulement après, si c'est ratifié, c'est publié, et puis si c'est ratifié, c'est positionné dans l'échelle que l'on a vue tout à l'heure. Vous voyez, c'est un exercice qui est long, mais c'est un exercice avec des... Ben c'est comme, un article de loi, ça passe par différents niveaux. Et alors, ben on a remarqué qu'au cours du temps, ici, je n'ai pas pris toute l'échelle, mais j'ai pris simplement les 600 derniers millions d'années. Et vous voyez, ça, c'est l'évolution de la biodiversité. Vous voyez que, voilà, de temps en temps, il y a des chutes de biodiversité. Ça s'appelle des crises du monde vivant. Et puis, et vous voyez que, ben là, d'abord, c'est le début de l'ère primaire, début du Paléozoïque qui est ici. Ça, ce sont les grandes crises qui sont mentionnées. On voit bien à chaque fois qu'il y a une chute de la biodiversité. Et vous voyez que la limite entre l'ère primaire et l'ère secondaire correspond à une énorme chute, une énorme crise de biodiversité. C'est qu'en effet, depuis 5 à 600 millions d'années, l'échelle des temps géologiques, les subdivisions, sont basées sur des modifications de composition faunique. Et là-dessus, je m'arrête, j'ai dépassé de beaucoup, je crois. Non, merci, ils sont gentils. Ils savent recevoir.
Très bien. Donc, après cette présentation des fondements géologiques, moi, je vais vous parler un petit peu plus en détail de l'aspect paléontologique. Et notamment ce qui nous concerne, nous, les humains. Alors, revoilà cette échelle des temps géologiques. Et vous pouvez constater, alors, on ne va pas la lire en détail, mais vous pouvez constater qu'il y a beaucoup de subdivisions dans ces parages-là, et puis il y en a de moins en moins par là. Alors que si vous voyez les durées qui sont impliquées là, on est à 4,6 milliards d'années, par là, on est à 1 milliard d'années. Là-dedans, il y a 3 milliards d'années, 3,6 milliards d'années. Et là, c'est juste 1 milliard. Donc, c'est beaucoup plus détaillé là que là. Et il y a une raison fondamentale à ça. C'est que là, on a un registre fossile qui est très complet, très détaillé, alors que là, il n'y a pas grand-chose. Ça se passe essentiellement à l'échelle microscopique. Et donc, on a peu de témoins fossiles. Alors, pourquoi ce lien avec les fossiles et la paléontologie ? Parce que, comme disait Patrick, pour marquer le temps, il nous faut des événements. Et quel est le processus qui nous a produit le plus d'événements sur cette planète qui sont bien marqués ? C'est la vie. Et c'est l'évolution du vivant. Et donc, on a, depuis à peu près 3,8 milliards d'années, ou 4 milliards. Il y a des chiffres qui sont aussi vieux que ça, qui circulent depuis pas très longtemps sur les toutes premières traces de vie. On a ce processus qui se développe en parallèle de l'existence de la Terre. Alors, on vous parle depuis tout à l'heure de millions, de milliards. Évidemment, ça ne vous dit strictement rien. Pour nous, à l'échelle de la vie humaine, déjà 10 ans, c'est long. Un siècle, c'était il y a très longtemps, et quand c'est 2000 ans, bon ben là, ça nous représente plus grand chose. Rassurez-vous, c'est exactement la même chose pour nous. On n'est pas né avec un don incroyable de savoir ce que c'est qu'un milliard d'années. Un milliard de dollars non plus, ça nous parle pas. Juste pour vous dire que la science n'est pas forcément très riche. Donc, ce que je voudrais faire, là, c'est vous donner une sorte d'échelle qui va nous permettre de discuter un petit peu de la même manière de ces très très longues périodes. Et donc, je vais faire quelque chose qui a souvent été fait, c'est-à-dire que je vais rapporter l'histoire de notre planète à la durée d'une année. Alors, comment on fait ça ? C'est très simple. Le 1er janvier... à 0 heure, on va considérer que c'est la formation de la Terre. Et le 31 décembre à minuit, on va considérer que c'est l'actuel. Et pour représenter l'actuel, j'ai choisi un symbole qui représente, à mon avis, tout l'aboutissement de l'évolution de la vie sur notre planète. C'est bien évidemment le concours de Miss France. Alors, la vie dans tout ça. Lucas, c'est the last universal common ancestor, le dernier ancêtre commun aux trois grandes subdivisions de la vie, je reviendrai dessus, qui sont les archées, les bactéries et les eucaryotes. Et donc, lui, il est là au centre. Ce n'est pas forcément le premier être vivant. Il y a certainement eu quelque chose avant, mais lui, c'est l'ancêtre de tous les êtres vivants qui existent sur notre planète. Lucas, il est quelque part par là, au 6 février, au matin, vers 8h59. Et puis, il s'écoule un certain temps, et on a les premiers écosystèmes avec des organismes macroscopiques, avec des animaux de grande taille, multicellulaires. Et bien ça, c'est le 13 novembre. Alors depuis Lucas, début février jusqu'au 13 novembre, il s'est passé plein de choses, mais au niveau microscopique. Et ça, on a finalement assez peu d'informations. Donc c'est la partie de l'échelle qui est assez peu subdivisée en tranches. Et puis à partir de là, on commence à être bien subdivisé. Ça, vous connaissez tous, sont les dinosaures. Et les dinosaures apparaissent à peu près au même moment que les premiers mammifères. Les premiers mammifères sont un poil plus tardifs, mais en gros, tout ça est aux alentours du 13 décembre, en fin d'après-midi. Les dinosaures, alors, certains dinosaures s'éteignent. Ceux, quand on parle de dinosaures, ceux auxquels on pense immédiatement, les tyrannosaures, les tricératops, etc., il faut savoir qu'il y a une partie des dinosaures qui survit, puisque les oiseaux sont les descendants directs des dinosaures. Mais bon, peu importe, les dinosaures disparaissent le 26 décembre, donc il n'y a pas très longtemps, et nous, les humains, nous apparaissons, la lignée humaine se sépare de celle des chimpanzés, le 31 décembre, en milieu de matinée. Ok ? Lucie, vous connaissez tous Lucie, à 3,2 millions d'années, elle apparaît en fin d'après-midi du 31 décembre. Homo sapiens, c'est dans la dernière demi-heure, et l'ensemble de l'histoire et des civilisations, c'est dans les dernières secondes de cette année. Maintenant, on est tous d'accord, on parle exactement le même langage. Donc maintenant, je vais revenir sur cette utilisation du vivant pour découper le temps. Et je vais prendre un exemple qui est le mien. Vous avez parlé de votre village. Je vais parler de mon coin de France. Alors, ça, c'est le Périgord. Vous avez la Vézère, ici, et vous avez des couches calcaires qui forment des falaises. Et quand j'étais gosse, j'étais passionné de paléontologie. Et ce que je voulais vraiment découvrir, ce n'était pas des dinosaures, ce n'était pas des Homo erectus, c'était des trilobites, ces machins-là qui sont des arthropodes divisés en trois compartiments, d'où leur nom. Et j'avais vraiment envie de trouver des trilobites, donc j'avais 10 ans, et cherchais des trilobites dans les calcaires du Périgord. J'en ai jamais, jamais trouvé. Et ce faisant, j'ai vérifié un principe qui est très très clair, qui est celui de la biochronologie, parce que les falaises de calcaire du Périgord, elles sont essentiellement du Jurassique et un petit peu du Crétacé, et les trilobites, ça a vécu au cours de l'ère primaire, et ils s'éteignent sans descendant à la fin du Permien. Donc heureusement, je n'ai pas trouvé de trilobites dans ma région. Bon. Donc c'est clair, quand vous voyez des choses comme ça, ça ne marche pas non plus. On n'a jamais côtoyé les dinosaures. Ils s'éteignent il y a 66 millions d'années. Et nous, on apparaît il y a à peu près 7 millions d'années. OK. Alors, pour être un petit peu plus technique, je vais revenir sur les ammonites. Parce que les ammonites, c'est un marqueur fantastique. Et il y en a aussi pas mal dans la région. Ce sont des animaux qui ont évolué extrêmement rapidement. Et donc, on les connaît pendant tout le Mésozoïque, pendant toute l'ère secondaire. Donc voilà un exemple de ces animaux, ça c'est le genre Hildoceras. Voici la reconstruction vivante de la bestiole. Ce sont des céphalopodes, comme les pieuvres, les calamars, sauf qu'eux, ils ont une coquille externe très très bien développée. Et dans la région, on a un stratotype. On a le stratotype du Toarcien, qui est un étage du Jurassique. et qui a été défini notamment grâce à ces ammonites. Alors, le Toarcien, il a été défini à Thouars, dans les Deux-Sèvres. Donc, c'est vraiment pas loin. Il y a une petite réserve géologique où on vous présente les choses et je vous invite à y aller. Et donc, on a des ammonites. Alors, avec ces ornementations, là, ça c'est très important, les côtes, là, qui sont représentées sur les volutes de la coquille. Et donc, vous avez ici l'évolution de ces ornementations. C'est les formes qui sont représentées ici. Elles finissent par se multiplier. Et donc là, vous avez une espèce avec ce type d'ornementation. Et là, une autre espèce avec ce type d'ornementation. Elles ne sont pas contemporaines. Elles forment une lignée. Donc, elles ne se sont pas côtoyées. Quand on trouve l'une, on ne trouve pas l'autre et vice-versa. Et celles-ci, on les trouve dans cette couche-là. Celles-là, on les trouve dans cette couche-ci. Et ça permet de définir les choses de manière très précise et avec des précisions qui, pour l'instant, sont inégalées par la radiochronologie pour ces périodes-là, puisqu'on est là dans des valeurs de l'ordre de la centaine de milliers d'années. On a des marges d'erreur qui sont de l'ordre du million d'années avec la radiochronologie. Et donc, quand on regarde les choses de manière un petit peu plus compliquée, en mettant toutes les espèces, toutes les familles, les sous-familles, on voit leur évolution et on peut définir beaucoup, beaucoup de subdivisions de ces stratotypes avec un découpage du temps extrêmement fin grâce à ces animaux. Du coup, ce n'est pas vraiment étonnant que pour définir les limites de temps dont parlait Patrick, on a utilisé des événements du vivant. Et alors, les clous dorés, qu'est-ce que c'est ? Ce sont ces endroits où on a défini formellement un marqueur. Le marqueur, c'est le clou doré qui permet de définir très très bien une limite qui est globale. Et 85% de ces clous dorés, ou GSSP, ils sont paléontologiques, ce sont des fossiles. Alors, ce sont surtout des invertébrés, donc on a des traces, des animaux qu'on appelle des graptolites, des conodontes, des ammonites, des microfossiles, etc. Et puis après, il y a d'autres choses dont je vous parlerai après très rapidement. En fait, quand vous prenez l'évolution des animaux, c'est un processus continu d'innovation. Et donc, c'est pour ça qu'on a toujours des événements qui viennent les uns après les autres. Ce qui est très intéressant, c'est que ce processus, il est absolument irréversible. Il peut y avoir des fois des retours de certains caractères, mais vous ne revenez jamais à exactement la même espèce une fois qu'elle s'est éteinte ou transformée en autre chose. Donc, on ne peut pas se confondre. On ne peut pas, à moins de faire une mauvaise identification, si on trouve une ammonite d'un certain type et qu'elle est éteinte, on ne devrait pas normalement la trouver beaucoup plus tard, à moins d'avoir loupé des fossiles dans l'intervalle, ce qui peut arriver. Cette évolution, à l'échelle des temps géologiques, elle est aussi instantanée. C'est-à-dire que, vous avez vu, les couches, elles sont relativement fines hein, dans le stratotype du Toarcien, et vous trouvez certaines espèces d'ammonites uniquement dans ces couches-là. Donc, ça va assez vite. Hein. Et puis, ce sont souvent des événements qu'on peut retrouver à l'échelle globale, parce qu'en général, les organismes utilisés sont des organismes océaniques qui sont répartis dans différentes mers du globe. Ces différents points, ils sont extrêmement importants pour définir les limites de temps. Si vous ne les réunissez pas, et je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, vous avez un problème. Alors, on a aussi, en dehors des changements d'espèces et des changements de caractère, on a des ruptures extrêmement importantes de l'échelle du temps, et c'est ce dont Patrick vous a parlé tout à l'heure. On a les extinctions de masse. Et on en compte 5 majeures dans l'histoire du vivant, et peut-être même une autre un petit peu plus tôt. Mais bon, disons qu'on en compte 5 majeures vraiment bien reconnues et définies notamment à partir des organismes marins. Alors, il y en a certaines qui sont plus spectaculaires que d'autres. Donc ça, c'est le nombre de familles marines. Et puis, vous voyez, des fois, il y a des reculs absolument drastiques. Une extinction de masse, c'est quand vous avez au moins 75% des espèces qui disparaissent. Alors, c'est des chiffres qui sont parfois pas toujours faciles à estimer, mais c'est l'idée générale. Je vais vous en présenter 2 brièvement. Celle-là et celle-là. On est à peu près à 240 millions d'années, et là, on est à peu près 66 millions d'années. 252 millions d'années, le Permien final. Voilà à quoi ressemble notre globe. Vous avez un supercontinent qui s'appelle la Pangée, qui réunit tous les continents qui actuellement sont séparés. Et vous avez une faune qui n'a strictement rien à voir avec ce que vous observez à l'heure actuelle. Alors vous avez des fonds marins très très riches, avec des trilobites, avec plein d'autres animaux. Et puis vous avez sur les continents une faune qui est dominée notamment par des reptiles mammaliens, qui sont les précurseurs des mammifères. Vous en avez un exemple de squelette ici. Et puis il y a énormément d'amphibiens et de choses comme ça. Pas de dinosaures, pas vraiment de mammifères. Qu'est-ce qui se passe à la fin du Permien ? On a, il y a à peu près 252 millions d'années, des éruptions volcaniques absolument massives qu'on a qualifiées de traps. Alors traps, je ne sais plus, c'est du suédois ou du norvégien, et ça veut dire escalier, marche. Et pourquoi ? Vous voyez, là, vous avez des traps, alors qu'ils ne sont pas ceux du Permien. Ceux-là, ils sont de l'Oligocène et c'est de l'Éthiopie. Mais vous voyez, ça fait des couches de basalte qui s'empilent suite à des éruptions volcaniques, donc c'est de la lave qui se refroidit, et qui vous fait des empilements qui ressemblent à des escaliers. Et vous avez des trappes absolument monstrueux qui se forment il y a 250 millions d'années en Sibérie. 3 millions de kilomètres cubes de lave qui éruptent pendant 1 million d'années. Ça veut dire à peu près 5 kilomètres d'épaisseur sur une surface grande comme la France. Donc c'est vraiment considérable. Avec ça, en plus de toute cette lave, vous avez un dégazage qui est extrêmement important dans l'atmosphère. Qu'est-ce qui se produit quand vous avez ça ? D'abord, vous avez une augmentation de la température mondiale qui est estimée à peu près à 6 degrés. Alors aujourd'hui, on nous dit qu'il ne faut surtout pas dépasser 2 degrés et on aimerait bien que ça reste en dessous d'1,5 degré, sinon ça va devenir difficilement tolérable. Là, on est à 6 degrés. Alors, c'est peut-être sur une échelle de temps moins forte, mais quand même. Plus grande, mais quand même. Vous avez, en parallèle, avec l'ensemble de ces gaz qui s'injectent dans l'atmosphère grâce aux éruptions, vous avez des phénomènes d'anoxie, c'est-à-dire de manque d'oxygène, à la fois dans les océans et dans l'atmosphère. Et localement, vous avez même des pluies acides, des pluies avec des sulfures qui viennent vous empoisonner les écosystèmes. Donc, le bilan, c'est une vue d'artiste, hein, c'est pas une image d'époque. Le bilan, c'est quelque chose qui pourrait ressembler à ça. Alors, ça a été appelé la grande extinction ou la grande hécatombe. En plus de ça, vous avez des plateformes continentales qui sont relativement réduites, puisque vous avez tous les continents qui sont regroupés en une seule masse continentale, donc moins de continents fragmentés, moins de surface pour les organismes océaniques, avec la Pangée. Donc la grande hécatombe, on estime que c'est à peu près 96% des espèces qui disparaissent. Donc la vie a presque failli passer à la trappe à ce moment-là. Pas tout à fait quand même. Comment on fait pour s'en tirer de cette grande hécatombe ? Voilà une reconstruction des fonds marins avec tout un tas d'organismes en surface, des organismes fouisseurs, des organismes pélagiques, c'est-à-dire qui nagent, qui vivent très bien. Et puis, on passe 1 million d'années d'éruptions de trappes volcaniques et on a ça. Très peu de macro-organismes. Et puis, ces choses-là sont des stromatolites. Ce sont des formations rocheuses qui sont déposées par des bactéries qui développent des petites couches, qui accumulent des petites couches de sédiments et qui forment ces stromatolites qui ressemblent un peu à des champignons. Donc on a une activité du vivant qui est essentiellement cantonnée à du bactérien sur les fonds océaniques. Alors au bout d'un million d'années, on retrouve des faunes qui se développent. Alors elles ne partent pas de rien, hein, y a quand même des survivants à cette époque-là, mais il y a une faible diversité, une faible disparité. Vous avez beaucoup de mollusques, et c'est souvent une ou deux espèces qui se retrouvent à foison dans les écosystèmes. Et puis petit à petit, on retrouve des fonds qui se colonisent avec plus d'organismes fouisseurs. Et enfin, au bout d'un certain temps, on retrouve des écosystèmes assez riches, avec plein d'organismes pélagiques, planctoniques, et des fonds océaniques très très riches. Alors, il aurait fallu 10 millions d'années. 10 millions d'années pour se remettre. Il y a certains collègues qui pensent que ça a été un peu plus long, mais même 1 million d'années à l'échelle de la vie humaine. OK. Au passage, une crise de cette ampleur, c'est également une opportunité. Il y a plein d'organismes qui disparaissent, mais il y en a aussi qui fleurissent en grande quantité après. Ça a été le cas pour la crise du Permien, la limite entre le Permien et le Trias. Ça a été le cas des dinosaures, ça a été le cas des grands reptiles marins et ça a été le cas des mammifères. Deuxième crise biotique, il y a 65 millions d'années, c'est la fin du Crétacé. Le Crétacé, c'est la période qui succède au Jurassique, que vous connaissez tous grâce à Steven Spielberg, bien évidemment. Et donc, là, vous avez un monde qui ressemble beaucoup plus au monde d'aujourd'hui. Et c'est un monde, vous le savez, qui est dominé dans les écosystèmes continentaux par les dinosaures. Vous avez aussi des grands reptiles marins et nos fameuses ammonites dans les fonds océaniques. Vous avez des dépôts absolument massifs de craie qui sont liés à des algues microscopiques avec un petit squelette calcaire qui forme ces épaisseurs de craie, ce sont les coccolithes. Et on a une série d'événements à la fin du Crétacé. D'abord, on a à nouveau du volcanisme et on a à nouveau des trapps, cette fois-ci en Inde, les trapps du Deccan, à 66 millions d'années, qui correspondent d'ailleurs au point chaud qui est actuellement situé sous la Réunion. C'est le même point chaud qui a créé ces trapps, c'est le piton de la Soufrière, je crois, à la Réunion, c'est ça, il me semble ? Je ne sais plus. C'est la Fournaise, je me trompe toujours. Et donc, vous avez à nouveau le même système. Des gaz sulfuriques, des poussières, un empoisonnement graduel des écosystèmes. Alors, ces trappes sont moins massives que ceux de Sibérie. Ils ont été actifs moins longtemps, mais du coup, ils ont été un petit peu plus intenses sur cette période. Et donc, on peut imaginer quelque chose d'un peu dramatique. C'est à nouveau une vue d'artiste, mais des écosystèmes qui se dégradent petit à petit. Et puis, il y a, ça vous en avez tous entendu parler, une météorite qui tombe à environ 65 millions d'années, et qui a fait beaucoup de bruit à la fois dans les médias d'aujourd'hui, et pas dans les médias de l'époque, mais dans les écosystèmes de l'époque. Cette météorite, on l'a diagnostiquée à travers d'abord un signal un peu indirect, qui est un pic d'iridium. Alors l'iridium, c'est un élément qui est rare à la surface de la Terre. Il y en a à l'intérieur du globe, mais il y en a très très peu à la surface de la Terre. Et il y en a par contre pas mal dans les objets qui se baladent dans le ciel, dans les météorites. Et donc il y a un pic d'iridium qui est détecté dans plusieurs points du globe qui serait le signal d'une grosse météorite tombée à ce moment-là. Et pendant des années, on a cherché un cratère. On ne l'a pas trouvé. Il a finalement été détecté, recouvert par tout un tas de sédiments de l'ère cénozoïque, du tertiaire. Il est sur la péninsule du Yucatan et dans le golfe du Mexique, à cheval. C'est un cratère qui fait à peu près 200 km de large. Et on estime que le bolide qui a percuté là était entre 10 et 15 km de diamètre. Donc on a une onde de choc particulièrement forte, des incendies, à nouveau des poussières et des gaz projetés dans l'atmosphère en grande quantité. Et vous avez, évidemment, au moment où on a découvert ça et on a fait cette hypothèse, c'était dans les années 80, on parlait beaucoup d'hiver nucléaire avec la peur d'une guerre nucléaire, peur qui a disparu alors que le danger n'est pas éliminé. Mais peu importe, on en vient à la disparition des dinosaures. Alors ce qui a tué vraiment les dinosaures, mais pas seulement les dinosaures, parce qu'on parle toujours des dinosaures, mais il y a plein d'autres organismes qui ont disparu. Les ammonites, tout un tas d'organismes planctoniques ont été victimes de cette crise d'extinction. Eh bien, ce qui a vraiment tué tous ces organismes, c'est une combinaison, c'est une combinaison vraiment malchanceuse entre plusieurs événements. Volcanisme, météorite, avec une séquence de bas niveau marin, de recul des océans. Donc, les chaînes alimentaires s'effondrent, les organismes dominants ont été les plus impactés, donc ammonites, reptiles marins, dinosaures, etc. Et donc, 76% des espèces se sont éteintes. Eh bien, les limites des grandes aires, de l'ère paléozoïque, l'ère primaire, et de l'ère mésozoïque, l'ère secondaire, sont très proches de ces extinctions. Elles sont marquées par ces renouvellements fauniques extrêmement forts. Néanmoins, les vrais marqueurs, du point de vue de la Commission internationale de stratigraphie, pour la limite entre le Permien et le Trias, c'est ça. C'est l'apparition d'Indeodus parvus, qui est un conodonte. Alors, c'est un animal proche des vertébrés, qui n'a laissé que des petits éléments dentaires, qui sont par contre très diagnosticables dans les sédiments et très reconnaissables. Et donc, ça, c'est le marqueur de la limite entre le Permien et le Trias. Par contre, le marqueur de la limite entre le Crétacé et le Paléocène, le début du Cénozoïque, c'est le pic d'Iridium. C'est le pic d'Iridium associé avec l'extinction de tous les animaux dont je vous ai parlé. Donc, ces grandes crises, elles ne sont pas forcément parfaitement aptes à définir ces limites très précises. C'est le cas du Permo-Trias, puisqu'on a quelque chose qui se développe sur plusieurs centaines de milliers, voire plus d'un million d'années. Donc, ce sont des événements globaux, mais qui s'inscrivent dans la durée. Alors, je vais complètement exploser mon temps de parole, et je suis désolé, parce que j'ai oublié de vous parler de l'humanité. Et l'humanité dans tout ça. Alors, j'aime bien citer cette phrase de Mark Twain, qui disait « Si la tour Eiffel représentait l'âge de la planète, la couche de peinture sur la protubérance la plus élevée de son sommet représenterait la part de temps dévolue à l'homme. » Et tout le monde comprendrait que cette couche de peinture est exactement ce pourquoi la tour a été construite. Okay ? Donc une vision qui n'était pas du tout celle des gens qui se sont intéressés à l'émergence de l'homme au début. Puisque là, vous avez un arbre phylogénétique proposé par un évolutionniste, l'allemand Haeckel, où vous avez ici l'homme, avec un grand H, au sommet de l'évolution de tout le vivant. C'est le point d'aboutissement, comme le concours Miss France. Et puis, vous avez plus tard, au XXe siècle, vous avez ce type de représentation avec une évolution graduelle qui suggère une marche vers le progrès. Eh bien, tout ça, ça s'est fait en dépit de ce qu'avait écrit Charles Darwin, puisque lui, il avait décrit des choses beaucoup moins anthropocentrées dans ses ouvrages « L'origine des espèces », l'ascendance de l'homme, puisque c'est comme ça que ça se traduit, et puis surtout l'expression des émotions chez les humains et chez les animaux, qui est un livre extrêmement intéressant, où il montre que finalement, il n'y a pas forcément de différence majeure de comportement, mais simplement de différence de degré entre les humains et les autres animaux. Alors, les humains ont aussi été vus comme, à travers leur évolution, des marqueurs des temps géologiques, et l'ère quaternaire, quand elle a été proposée, définie initialement, c'était vu comme l'ère de l'avènement de l'humanité, et également marquée par des grandes glaciations, alors popularisées par différentes choses au cinéma, mais bien connues alors, par ces humains fossiles, et puis par des faunes extrêmement célèbres, de mammouths, de grands animaux, rhinocéros laineux, etc., dans différentes régions du monde, on parle de mégafaunes. Et puis, après cette ère quaternaire, on a le post-glaciaire ou l'Holocène, et c'est à partir de ce moment-là que les humains commencent à marquer la planète de leur civilisation. Ils domestiquent tout un tas de plantes et d'animaux, et on a plein de choses qui se développent. Alors, tout de suite, on va remettre les choses dans le droit chemin. Vous connaissez cet arbre. Notre place sur cet arbre, c'est là, à côté de cela. Pas très loin de cela, pas très éloigné non plus de ceci, et dans le paquet qui regroupe tout cela, c'est-à-dire les animaux. On est voisin des champignons, pas très loin des plantes, et ensemble, avec tout un tas de bestioles comme les amibes et compagnie, on forme les eucaryotes, c'est-à-dire tous les êtres vivants avec une cellule qui a un noyau qui contient leur ADN. Et puis les grandes autres subdivisions, les deux autres, sont les archées et les bactéries. Ok ? Donc nous, on est là, et puis le vivant, c'est tout le reste de ça. Donc on est un petit élément de la biodiversité. Alors plus précisément, nous sommes là dans notre portrait de famille, alors les mammifères et puis les primates. Nous sommes des primates. Nous sommes des primates dont l'évolution a été marquée par notamment la découverte de Sahelanthropus il y a 7 millions d'années. C'est le plus ancien connu d'entre nous, de notre lignée humaine, à partir du moment où on se sépare d'avec les chimpanzés. Alors les différences, c'est notamment le fait que nous, humains, depuis Sahelanthropus, on a des petites canines, et puis on a une locomotion qui tend à être habituellement bipède. Ça, c'est un bassin de chimpanzé, ça, c'est un crâne de chimpanzé, puis ça, ce sont des bassins d'hominidés un ardipithèque à 4 millions d'années, Lucie, et puis nous, vous voyez, c'est très différent et c'est lié à une station habituellement bipède au sol. Donc nous sommes en gros de grands singes à petites canines, souvent bipèdes. Alors voilà notre famille, notre lignée avec toute sa diversité telle qu'elle est connue à l'heure actuelle. Alors il y a plein de trous dans cette histoire, il y a plein d'espèces qui sont connues par très peu de fossiles. Au passage, ça c'est un visuel de l'exposition qui est juste à côté, tous humains, jusqu'au 3 mars. Et donc si on veut marquer le temps à partir de ce registre, eh bien, on aurait un point assez évident, c'est le moment de la divergence avec les chimpanzés, ça c'est quelque chose d'assez objectif, on a une dichotomie entre deux lignées. Là, malheureusement, on n'a pas de fossiles qui documentent cette dichotomie. Donc c'est peut-être entre 10 millions d'années et 8 millions d'années. Après, si on veut essayer d'autres dichotomies, on a, sur la base d'un registre fossile peu abondant qui entraîne beaucoup d'incertitudes, quant aux adaptations et aux relations de parenté, tout ça, c'est assez hypothétique, eh bien, on peut différencier trois grands groupes, un paquet d'hominidés d'humains relativement primitifs, qui inclut les australopithèques comme Lucie et puis le sahélanthrope là, et puis on a ici des choses qu'on appelle les australopithèques robustes, qui ont développé des mâchoires impressionnantes avec des très très grosses dents. Et puis on a un autre groupe qu'on appelle le genre homo, avec une denture beaucoup moins impressionnante, mais par contre un cerveau beaucoup plus développé. Ça, c'est également une subdivision majeure de notre histoire, entre une dichotomie importante entre d'un côté les robustes et de l'autre les graciles, dont le genre homo. Alors là, on a le bout de temps qui nous concerne, avec les différents clous dorés qu'on retrouve ici. Et puis, on peut positionner un certain nombre d'événements importants pour l'humanité, donc la divergence entre les humains et les chimpanzés, les plus anciens humains connus. Alors, la divergence ici, elle est incertaine, évidemment. Hein. Le genre australopithèque, la divergence entre les robustes et le genre homo. Le genre homo, il apparaît peut-être vers 2,5 millions d'années. L'expansion... pour la première fois, des humains hors du continent africain, et puis l'apparition d'Homo sapiens, quelque part, il y a 300 000 années, à peu près. Alors ça, je vous l'ai dit, c'est imprécis. Ces repères-là, ils sont provisoires, compte tenu du registre fossile, et je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Quant à ceux-là, le genre australopithèque et le genre homo, ce sont des divisions parfaitement arbitraires, sont des choix des scientifiques, pour mettre une limite là où on avait besoin d'en voir une. Alors, on pourrait peut-être utiliser, si la biologie ne fonctionne pas, l'impact des humains pour définir le temps. Alors, par exemple, à travers leur production culturelle et les premiers outils. Alors, en 1964, les premiers outils, ils étaient là à 1,8 million d'années. En 72, ils étaient un petit peu plus avant, à 2,3. En 97, on en a trouvé à 2,6 millions d'années. Et il y a deux ans, on en a trouvé à 3,4 millions d'années. Vous voyez bien que sur un registre où on a peu d'éléments, on s'expose à des découvertes fréquentes qui reculent systématiquement les âges. Et donc là, on ne peut pas s'amuser à définir les choses sur ces outils-là, par exemple, ou sur des fossiles où on a très peu de représentants. Donc, trace ténue, date changeante. Alors, on peut continuer. L'extinction des mégafaunes à la fin de l'ère quaternaire, puisque vous savez, on n'a plus de mammouths et plus de rhinocéros laineux dans nos campagnes, et ça fait à peu près 12 000 ans. Et puis... autre chose, la domestication des plantes et des animaux, ça a un impact important, c'est depuis plus de 12 000 ans, mais ces deux processus, dans les deux cas, sont des processus qui s'inscrivent dans la durée. Vous avez un fort diachronisme, c'est-à-dire quand ça commence et quand ça se termine, il s'est écoulé beaucoup de temps. Donc ça, on ne peut pas utiliser non plus pour marquer le temps. Donc au final, le quaternaire, on utilise quoi pour le marquer ? On utilise... pour marquer la base du quaternaire, une inversion des pôles magnétiques. Le pôle sud est passé au nord et vice-versa. Et donc, c'est une limite qui est ici. On avait une période normale avec le pôle nord au nord actuel et ensuite une période inverse avec le pôle nord qui passe au sud. Et donc, les deux périodes concernées, c'est Gauss et Matsuyama, peu importe. Ça correspond à peu près à l'initiation des grandes glaciations depuis à peu près 2,7 millions d'années. Au passage, ce que disait tout à l'heure Patrick, c'est que ça n'a pas été toujours comme ça. Et il y a 10 ans, la limite entre le Pliocène et le Pléistocène, c'était il y a 1,8 million d'années. Donc ça change. Même type de marqueur pour la base du Pliocène. Et l'Holocène, c'est un autre type de marqueur. Ça, c'est une carotte de glace du Groenland. Et vous avez une limite qui est définie ici sur la base d'un changement de la courbe du deutérium. Alors, c'est un isotope de l'hydrogène. Et vous avez ici, avant 11,7 milliers d'années, donc il y a 11 700 ans, on arrive ici à un décrochement et à moins de deutérium dans la carotte. Et donc, on a notre limite de l'Holocène ici. Et voilà, je m'arrête, je suis désolé pour avoir mordu sur le temps.
Est-ce que pour l'instant, il y a quelques questions ? On espère.
Il y a un micro. Est-ce que... pas de réaction, pas de... tout est clair, vous êtes brillant. On continue ou s'il n'y a pas de questions alors ?
S'il vous plaît, ce serait gentil.
Si, je pourrais avoir une question.
Pas de souci. Je m'excuse, on enregistre, donc merci de bien vouloir utiliser le micro.
Oui, une question. Quand j'avais entendu parler de l'Anthropocène, je pensais que dans l'esprit de certains, c'était une époque qui aurait commencé très très récemment avec l'industrialisation, etc. Donc on est bien loin de rechercher des fossiles. Alors c'est peut-être pas le mot anthropocène, dans ce cas-là, n'est peut-être pas utilisé par des paléontologues, mais plutôt, je ne sais pas, par des naturalistes. Donc cette notion-là, elle existe à votre avis, cette notion d'anthropocène extrêmement récente est liée à l'industrialisation ?
Si je peux répondre. Merci, monsieur, de cette question. Ça fait une parfaite transition avec l'intervention qui arrive. Parce que, si vous voulez, maintenant, on va parler réellement de l'Anthropocène. On vous a d'abord montré comment on établissait l'échelle des temps géologiques et pourquoi il fallait établir une échelle. Ensuite, on vient de vous parler des critères, des principaux critères, c'est les fossiles. Mais il a bien dit, il n'y a pas que les fossiles. De temps en temps, il a parlé de l'iridium. D'autres fois, il a parlé d'une inversion du champ magnétique. Donc, c'est large dominante de fossiles, mais pas que. Et alors maintenant, on va parler de l'Anthropocène. Alors, l'Anthropocène, c'est une notion qui est apparue en 1972, qui a été proposée par Paul Crutzen, qui a un prix Nobel de chimie. Alors, vous savez que quand un prix Nobel parle, ben ça fait tout de suite beaucoup plus de bruit que quand c'est un scientifique quelconque d'un laboratoire quelconque. Alors, qui était le Crutzen ? Ben Crutzen, ce n'est pas un géologue, ce n'est pas un paléontologue, c'est un géochimiste. Et donc, alors lui, il est sensible à ça parce qu'il a remarqué qu'il y avait une augmentation du taux de gaz carbonique, le CO2, dans l'air. Et alors, il dit c'est tellement fort que ben, ça vaut le coup d'en parler, ça vaut le coup de le mentionner. Et alors, ben, vous voyez, dans GSA Today, hein, c'était donc, on n'est pas dans les revues scientifiques grand public, c'est réservé aux géologues. Voilà, l'Anthropocène de l'époque, une décision scientifique ou une décision politique. Vous voyez, déjà, dès le début, la question se pose, est-ce un aspect scientifique ou est-ce... Alors, quand ils disent quelque chose politique, c'est au sens de la politique, au sens noble du terme. Est-ce que c'est quelque chose qui relève de la société ? Et puis, ben voilà, les économistes tout de suite s'emparent de ça. Et donc, bienvenue à l'Anthropocène. Donc, c'est un mot qui est très rapidement a fait florès. Et par exemple, dans des revues comme Google Scholar, en novembre 2007, il y avait déjà 50 000 citations. Si vous faites Google Scholar, il y a 50 000 articles déjà qui parlent de l'Anthropocène. Et alors, ça a tellement fait florès que, ben, si on voulait être moderne, il fallait aller dans le sens du vent. Et les bateaux, c'est comme ça qu'ils vont le plus vite, hein, quand ils suivent le sens du vent. Et puis, il y en a qui ont proposé, tant qu'à faire, d'aller plus loin que simplement l'Anthropocène. Ils ont dit, ben oui, mais il y a aussi une modification de température. Donc, ils ont proposé le thermocène. Il y a aussi une augmentation de la mortalité et disparition d'espèces, hein, donc la mort, thanatocène. Et puis, il y a aussi, on a changé nos régimes alimentaires, le phagocène. Et puis, après, on a aussi le phronocène, on a aussi le polémocène, parce que c'est l'époque où il y a des guerres, etc. Et ça, c'est dans un livre qui a été publié, donc l'événement anthropocène. Donc, il n'y a pas de doute, hein, ça existe. Enfin, du moins, pour eux, c'est affirmatif. C'est l'événement anthropocène, c'est un événement. Ça, c'est quelque chose, tout de suite, c'est précis. Bon, le problème, c'est que ce n'est pas des scientifiques, ce sont des historiens. Alors, je sais bien, les historiens sont des scientifiques, mais ce n'est pas tout à fait la même démarche. Et voilà, donc, c'est messieurs Bonneuil et Fressos. Et puis ben, comme il fallait mettre du nouveau, il fallait mettre en scène du Seine, mais il y en a même, dans le Guardian, il y a eu du Trumpocène. Hein, quand Trump est arrivé à la présidence, le Trumpocène. Voilà, on sait, il faut être à la mode, donc il faut utiliser ce mot. Alors, normalement, pour une limite, ça a été dit tout à l'heure par le conférencier précédent et moi, pour les critères, mais il faut d'abord que ce soit des critères qui soient globaux, parce que si on veut parler d'une époque géologique, ça concerne la totalité de la Terre, donc il faut que ce soit global, et surtout, si c'est un repère temporel, il faut que ce soit synchrone. Il faut que ça se passe partout en même temps. Et alors, ben, ce qui avait été proposé initialement, c'est la révolution industrielle. Hein, ça, c'est Crutzen qui a proposé ça avec l'augmentation de CO2. Révolution industrielle, c'est précis quand on parle en général. Mais c'est quand? Alors là, il y a eu des gros débats. Et ce qui a été retenu, finalement, c'est la proposition, c'est le dépôt du brevet de la machine à vapeur en 1784 hein, pour la locomotive. Alors, vous voyez, j'ai hésité, ben, il faut faire attention, parce qu'on dit souvent dépôt du brevet de la machine à vapeur. Non, c'est une amélioration de la machine à vapeur. Alors, pourquoi ça a été pris, ça? Ben, ça a été pris parce que, comme on a amélioré le fonctionnement de la machine à vapeur, on a pu l'utiliser beaucoup plus, donc on a pu l'utiliser pour pomper l'eau dans les mines de charbon, donc on a pu utiliser beaucoup plus de charbon, donc ben, il y a du charbon qui a brûlé, donc il y a du CO2 qui s'est dégagé. Donc voilà, ça a été... Donc une date, alors moi déjà, mais ça c'est que personnel, hein, c'est pas scientifique, mais j'ai le droit d'avoir une réaction de citoyen. Je trouve ça un peu dommage parce qu'en fait, 1784, c'est quand ce monsieur a déposé ce brevet. En fait, il a voulu déposer un brevet d'amélioration et il s'est aperçu qu'il n'y avait aucun brevet. Donc il a fait une rafale de brevets et en clair, il s'est enrichi sur les découvertes des autres. Les autres, il n'avait qu'à le faire, hein, il n'avait qu'à le faire. Mais toujours est-il que la machine à vapeur a été inventée par lui. Non, c'était une amélioration et c'était ses ouvriers qui avaient fait l'amélioration. Mais lui, c'était le patron. Bref, c'est autre chose. Mais vous voyez, déjà, je mélange la science et la réflexion citoyenne. Vous voyez, on n'est plus dans la science pure sucre. Alors, quelles sont les propositions choisies pour les impacts des humains sur l'environnement? Alors, ça a été longuement discuté. Et alors, vous voyez ici, donc, 10 000 ans, donc néolithique, 5 000 ans, l'âge du bronze, l'âge du fer, etc. Bon, on ne va pas parler de ça. Alors, les divers critères. Alors, il a été question, justement, avant, utiliser la domestication. Ah ben oui, la domestication, ça a déjà été une modification parce que ça a modifié le rejet de CO2. Alors, mais le problème, c'est que la domestication et puis les changements de l'agriculture, ben, c'est que dans le sud-ouest de la Chine, hein, ça s'est fait un peu avant le néolithique. En Chine du Sud, ça s'est fait vers 6000 ans. Nord de l'Afrique, ça s'est fait vers 3000 ans, à l'âge du bronze. Donc, vous voyez, il y a déjà plusieurs millions d'années. Donc, la domestication ne peut pas être utilisée puisque c'est diachrone. Et puis, en plus, et après, il va falloir définir la domestication en général ou de tel type d'organisme ou tel autre type d'organisme. Alors, j'ai passé les autres. Hein, vous voyez, c'est l'augmentation du CO2, en fait, elle s'est fait progressive. Parce que, ben oui... ça, ici, on est déjà à l'augmentation de CO2. Oui, quand on arrive au néolithique, on brûle des forêts, et surtout à l'âge du fer, on brûle beaucoup de bois pour faire fondre le cuivre, puis pour faire fondre le fer. Et ça se repère dans les archives sédimentaires. On voit une augmentation de carbone utilisé. Donc, alors, il y a aussi l'augmentation du méthane, l'érosion des sols, etc. Bref, je n'en montre qu'un, mais vous voyez, il y a plusieurs types de critères qui sont utilisés, mais tous sont diachrones. Alors, d'autres signatures aussi liées à l'homme, ça c'est d'après Waters. C'est important que je mentionne qui l'a dit, parce que Waters, c'est le principal auteur que vous verrez qui parle de l'anthropocène. Hein, c'est toujours Waters. Alors, lui-même dit, ben voilà... Qu'est-ce qu'il nous faut choisir? Alors, on peut prendre des dépôts liés à l'homme. Alors, ça peut être les dépôts de minéraux, ça peut être l'anthroturbation, c'est la modification que l'homme apporte au paysage, etc. Les dépôts artificiels. Alors, ça peut être, par exemple, le début de l'exploitation des mines ou l'utilisation de nouveaux alliages. Mais ça peut être aussi, en biostratigraphie, la modification des systèmes dans les systèmes récifaux. Ça peut être aussi, du point de vue géochimique, la modification qu'on voit dans la sphère froide ou dans les spéléothèmes, c'est-à-dire les stalactites, stalagmites, etc. Bref, à chaque fois, il y a une date précise. Alors, je vous ai mis deux dates qui pourraient être synchrones. Ça, c'est notre critère que nous, société, on utilise. C'est l'an 1 de notre ère. Et donc là, on est en l'an 1 de notre ère. Ici, on est au milieu de 1950, donc ce serait au milieu de la révolution industrielle. Et vous voyez, là, il y a un certain nombre d'éléments qui correspondent, mais parfois, c'est un peu anarchique. On n'a pas d'éléments qui soient synchrones partout. Alors, on peut prendre d'autres repères, toujours d'après Waters. Il donne la production annuelle d'aluminium, béton, plastique, fibres synthétiques, etc., poussière carbonée qu'on retrouve dans les sols, les engrais, etc. Mais vous voyez, donc, là, c'est les bétons. Mais vous voyez que bon, c'est à peu près stable jusque-là. Et puis, il y a une augmentation, mais suivant le produit qu'on prend, ben, l'augmentation n'est pas la même et le type d'augmentation n'est pas le même pour tous. On peut prendre aussi d'autres augmentations, d'autres pics, d'autres types de consommation. Et vous voyez, alors ici, ça semblerait être le début, un changement d'inflexion de courbe, mais à ce moment-là, là, ça ne correspond à rien. Donc, il y a toute raison de discuter, de choisir, et suivant qu'on est sensible à ceci ou à cela, on cesse d'influencer par ceci ou cela. Alors, puisqu'on a utilisé longtemps les espèces pour définir les subdivisions de l'échelle des temps, on peut regarder ce qu'il en est des extinctions d'espèces animales, c'est-à-dire on s'inscrit dans la logique qui nous a été présentée précédemment. Alors, l'extinction des mammifères, vous voyez, c'est, donc ici, on est au XVIe siècle. Il y a une première augmentation ici vers 1700-1800, mais il y en a une deuxième ici, et puis là, il y a une grande incertitude. Mais si on prend les oiseaux, il y a aussi plusieurs inflexions de courbe, mais ce n'est pas du tout en même temps. Si on prend l'ensemble des vertébrés, c'est encore quelque chose qui est différent. Et si on prend les poissons, les reptiles, les amphibiens, c'est encore une autre courbe. C'est-à-dire que si on veut prendre les extinctions d'espèces animales, ce qui a été utilisé pour les autres échelles de temps, ça ne marche pas parce que ce n'est pas du tout synchrone. Suivant le groupe qu'on considère, c'est à tel moment ou à tel autre. Alors, on va prendre un signal radiogénique, parce que là, ça, c'est global. Par contre, c'était au moment des explosions, on a fait des essais nucléaires, ils étaient d'abord faits en l'air. Donc quand il y a un essai nucléaire, donc une bombe qui explosait, il y avait une répercussion sur la totalité de la planète. Et alors, le problème, c'est que le début des essais nucléaires, ça normalement, ça marque un début, mais sauf que le début est très timide. Alors ça va en augmentant, ça augmente. Mais alors, il faut prendre quoi ? Il faut prendre ça, ça, ici. Bref, comme ils ne savaient pas bien, ils ont choisi de prendre la chute. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le phénomène marqueur, on prend la fin du phénomène marqueur. Ce qui est un peu surprenant, si bien qu'il a été choisi, sauf erreur de ma part, de prendre 1950-1962, je crois, quelque chose comme ça. Bref, c'est en discussion, parce que suivant les sensibilités, on a ceci ou cela. Alors, l'état des lieux, c'est que la Société géologique de Londres a reconnu la validité de l'Anthropocène comme ère géologique. Alors ça, les journaux en France, le Figaro, Le Monde, etc., Ouest France, en ont beaucoup parlé. Ils ont dit, voyez, ça y est, c'est accepté, la Société géologique de Londres a décidé que... Petit souci, c'est que... Bon, Waters, vous avez compris avec le nom, il est grand breton. Et plusieurs du groupe, la majorité du groupe, sont des grands bretons. Sauf que la Société géologique de Londres, qui est une société savante très respectable, certes, mais elle n'a aucune autorité pour dire que c'est quelque chose qui existe. C'est simplement, ils ont dit, nous, on a envie de dire que l'Anthropocène existe. Mais ce n'est que nous, on a envie. Alors que les journaux, on voit partout, ça y est, c'est décidé, c'est clair, les géologues ont accepté. Pas du tout. Vous avez, souvenez les premiers diapos, il fallait d'abord un groupe de travail qui soumettait son travail à la sous-commission, qui soumettait son travail à la commission, qui passait au comité exécutif, etc. Là, il n'y a rien de tout ça qui est fait. Il n'y avait même pas de groupe de travail. Donc, ça n'a aucune valeur internationale. Alors, parce qu'en plus, il manque la coupe. Parce que toujours, quand il vous a été montré des points limites, à chaque fois, il a été montré, on a vu Touard. Vous avez vu, c'est une coupe, c'est du vrai. On le touche, on dit c'est là, c'est pas là, et c'est pas là, c'est là. C'est quelque chose de précis, il faut une coupe. Là, il n'y a pas de coupe proposée. Et puis, il faut soumettre un dossier par le groupe de travail à la sous-commission. ce qui n'a pas été fait. Donc, mais, officiellement, scientifiquement, ça n'existe pas. Donc, ce qui est fait, je vous rappelle le schéma que j'avais montré tout à l'heure, hein, le groupe de travail, la sous-commission, la commission, les comités exécutifs, etc. Pour la, maintenant, ça a avancé, maintenant, il y a un groupe de travail qui existe. Et puis, c'est tout. Il y a un groupe de travail qui existe. Ben, c'est bien qu'il existe. Mais enfin, on n'en est pas là. Alors ça, c'est important parce qu'il y a une pression qui est faite. Pourquoi, je ne sais pas. Mais où on cherche à nous imposer l'anthropocène comme ère géologique. Et ce qui me gêne, c'est de dire anthropocène, ère géologique. Que l'homme a une influence sur la planète, c'est évident, on l'a vu. Enfin, il suffit de regarder autour de nous, ça se voit. On a vu les changements d'agriculture, la domestication, tout ça. Oui, il y a un changement. Mais ce n'est pas une ère géologique. Ça n'a rien à voir avec une ère géologique. Il y a un changement dans le fonctionnement de la société, comme on a eu, il y a eu le néolithique, il y a eu la Renaissance, et par exemple, prenons la Renaissance, bon exemple. La Renaissance commence quand? Elle finit quand? Ben, suivant les critères, la Renaissance a duré entre 75 ans ou 4 siècles, presque 4 siècles. Hein, parce que pour les uns, c'était l'événement, pour les autres, c'était l'autre événement. C'est Christophe Colomb qui arrive, l'autre, c'est Léonard de Vinci, l'autre, c'est etc., etc. Donc, je me suis amusé à regarder tous les critères de début et de fin de la Renaissance, et on a entre 75 et 3 siècles et demi. Mais néanmoins, c'est une époque de l'humanité, c'est vrai. Parce que, alors, l'Anthropocène, ben, c'est le même, parce que s'il y a la domestication dans tel pays, tous les peuples n'ont pas le même... Alors, j'ai du mal à utiliser le mot... n'ont pas les mêmes changements de technique, je veux dire. Parce que j'avais tendance à dire on n'a pas la même évolution, mais il faut faire attention aux mots. Donc, n'ont pas les mêmes changements des technologiques. Aujourd'hui, nous, on utilise un hélicoptère pour se promener, mais c'est pour aller voir, pour aller sauver les Indiens d'Amazonie, qui n'utilisent pas tout à fait l'hélicoptère, ni la télé, etc. etc. Donc, il y a un niveau technologique qui est différent, mais néanmoins, ben, l'Anthropocène comme époque sociétale, oui, pourquoi pas, comme la Renaissance a été un changement dans l'humanité, mais ce n'est pas synchrone, et c'est pas, enfin, ce n'est pas synchrone au niveau global. La Renaissance en France, elle s'est faite bien avant qu'elle se fasse à Ushuaïa. Alors voilà, les questions, pourquoi vouloir en faire une ère géologique? Parce que ce n'est pas le bon pas de temps, hein, parce que l'autre, le pas de temps, c'est la durée. L'autre ère, une ère géologique, hein, vous avez vu sur les tableaux, le mot ère, époque, série, tout ça, ça a des significations. L'autre ère, la plus courte, fait 65-66 millions d'années. Alors on peut dire, oui, mais c'est peut-être pas une ère, c'est peut-être une subdivision plus faible. Mais une subdivision plus faible, ça fait quand même 14 000 ans. Là, ce qui est proposé aujourd'hui, ça ferait 67 ans. Donc... voilà. Moi, d'après si je suis ça, je suis né avant l'Anthropocène. Donc, ils n'ont pas le bon pas de temps et ils n'ont pas la bonne coupe stratigraphique. Parce qu'ils ben, n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Alors, la question, pourquoi changer la logique aussi de cette subdivision? Parce qu'on vous a dit, il y a les éons, les aires, il y a les périodes, il y a les séries, il y a les étages, etc. Et là, ben, ils parlent d'air, d'era, et maintenant ils ont dit, ah mais non, d'accord, ça ne va pas être une ère, ça va être une série. Ben oui, mais on n'est pas dans le même système, parce que d'un côté c'est chronostratigraphique, de l'autre côté c'est stratigraphique. C'est des détails un peu, qui vous paraissent un peu compliqués, mais ça veut dire, l'un parle en pouces et l'autre parle en centimètres. On ne parle pas tout à fait de la même chose. Donc, je ne sais pas pourquoi on change la logique de la subdivision. Et surtout, pourquoi vouloir imposer cette subdivision à l'échelle des temps géologiques. Les journaux avaient annoncé, après la Société géologique de Londres, ça c'est mon vécu, ça avait été annoncé dans les journaux au moment du Congrès géologique international, parce que c'est là où la décision finale doit se prendre, hein, comité exécutif, et après c'est soumis au Congrès géologique international. Donc en 2012, à Brisbane, il a été question, les journaux en ont beaucoup parlé, ils ont dit ça va se discuter, on va décider que, alors je m'étais renseigné, j'y étais pas allé, parce que ma santé m'a fait des surprises. Et donc, j'ai demandé à ceux qui y étaient allés, je ne me souviens pas en avoir entendu parler, donc j'avais pris contact avec le président de la commission stratigraphique, qui est donc le patron de ce machin-là. Il m'a dit non, il n'y a pas eu de décision, ça n'a pas été rejeté, ça n'a pas été accepté, ça n'a pas été discuté. Ça n'est pas discuté parce qu'il n'y a pas de dossier déposé. Donc, ce n'est pas à l'ordre du jour. Et puis, alors là, je l'ai connu, 2016, le congrès géologique était à Cape Town. Et alors là, c'est fantastique, j'étais là-bas le matin, j'ai un ami qui m'envoie une coupure de Ouest-France en disant « ça y est, la décision a été prise au congrès géologique de Cape Town, l'Anthropocène est reconnu ». Alors j'étais un peu surpris parce que la réunion avait lieu l'après-midi. Et puis là-dessus, il y a France Inter qui appelle en disant « Mais alors, donc ça y est, c'est passé, pouvez-vous nous raconter ?» J'ai dit « Mais j'ai rien à raconter. » Et il n'y a eu que trois communications sur l'Anthropocène. Une qui était de Waters, qui disait « Ça vaut le coup, ça vaut le coup, ça vaut le coup. » Et deux qui étaient du président de la Commission stratigraphique internationale. Sa première, c'était de dire « Je rappelle les critères pour modifier, pour mettre un point dans l'échelle des temps. » Et d'autres, il relevait les dossiers des autres en disant « Il manque ceci, il manque ceci, il manque cela. » Et il avait dit à Waters, parce que là, ils étaient en direct, hein, donc il a dit « Est-ce que vous avez une coupe à proposer ?» Ou plusieurs. L'autre, il a dit « Non, mais vous savez, je suis en train de faire autre chose, etc. » Bref, il a essayé de noyer le poisson. Mais toujours est-il que les journaux, là aussi, disaient partout « Ça y est, c'est décidé. » Alors que les trois réunions où on ne décidait rien du tout, les trois communications qui se tenaient là-dessus, c'était que l'après-midi. C'était déjà annoncé. Alors, j'ai dit « Ouest France » parce qu'on m'a envoyé ça. Mais après, il y a eu d'autres journaux qui ont dit « Ça y est, c'est accepté, l'Anthropocène. » Alors, la question que je me pose, c'est pourquoi il y a ce forcing? Pourquoi ils sentent ce besoin de faire un forcing pour ça? Je crois que la réponse, elle est, je ne sais pas, sociétale, comme on dit aujourd'hui, ou psychologique, ou économique, je ne sais pas. Mais en aucun cas, c'est un problème géologique dans l'état actuel des choses. Ce n'est pas que c'est refusé, c'est que le dossier n'existe pas. Et d'ailleurs, ce n'est peut-être pas un hasard que dans ce groupe de travail, si vous regardez, je crois qu'il y a deux géologues, allez, je vais être gentil, il y en a trois. Mais pas plus, tous les autres, mais ils sont quand même une quarantaine. Ce sont des géochimistes, des physiciens de l'atmosphère, donc des physiciens, des océanographes, etc. Par exemple, en France, la dame qu'on voit le plus souvent, c'est Catherine Jordel, qui est une géochimiste de l'océan. Et son pas de temps n'est pas le million d'années, ni même les 10 000 ans. L'océan, c'est... On admet qu'une goutte d'eau fait le tour de tous les océans en 1 000 ans. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout le même temps. Et elle s'intéresse à la géochimie, elle ne s'intéresse pas du tout à la géologie. Voilà. Donc, je vous livre, non pas des réponses, mais des questions et des choses qui interpellent en disant qu'est-ce que c'est que cette affaire. Alors, on dit l'homme modifie son environnement, c'est ça qui est formidable, c'est ça qui est tout nouveau. Alors, un petit rappel quand même, ça vous a été dit tout à l'heure. L'homme modifie son environnement. Comme la vie modifie son environnement, l'homme est un organisme vivant, mais la vie en général, elle fait ça depuis qu'elle existe, depuis 3,5 milliards d'années. Ce n'est pas tout neuf, ça, quand même. Milliards, on a bien dit tout neuf. Alors, vous voyez, par exemple, on vous a présenté tout à l'heure des stromatolites. Voilà ces organismes-là, quand ils ont commencé à se développer. Donc ça vit aujourd'hui, mais ça existait déjà, c'est parmi les premiers organismes à apparaître, ça existait. Donc, et quand ils ont commencé à vivre, ils avaient une fonction... photosynthétique, ils prenaient de la lumière, ils prenaient du CO2, ils en faisaient de la matière organique, et comme tout organisme vivant qui fait des modifications, bien, il y a un rejet. On a nous-mêmes des petits rejets, généralement vers le bas. Et bien, eux, leur rejet, c'était l'oxygène. C'est-à-dire qu'ils ont relâché un poison dans l'atmosphère, un poison violent, parce que l'oxygène est oxydant. Et donc, sans doute que ce fut la première grande crise du monde vivant. Parce que aujourd'hui, on dit beaucoup que les organismes ont besoin d'oxygène pour vivre. Non, notre type de vie a besoin d'oxygène pour vivre. Et j'ai tendance à dire, heureusement que tous les organismes n'ont pas besoin d'oxygène pour vivre, sinon on n'aurait pas de pinard. Donc, alors voilà, de la vie vers l'oxygène, ce poison. Et alors, c'est tellement vrai qu'il y a eu des effets, mais des effets fantastiques sur la Terre. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'oxygène dans l'air. Pas d'oxygène dans l'eau, enfin, ou très peu. Si bien que dans l'eau, le fer qui était là, il était sous forme réduite. C'est ce qu'on appelle un fer ferreux. Et le fer ferreux, quand il s'oxyde, ça devient un fer ferrique, peu importe. Le fer ferreux qui est vert est soluble. Le fer ferrique qui est rouge n'est pas soluble. C'est-à-dire que quand il passe de ferreux à ferrique, il précipite. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui ce genre de sédiments. Vous voyez, c'est des sédiments, c'est surtout du fer avec un petit peu de silice. Alors ici, par exemple, ce qui est blanc, en fait, c'est du fer pur fer. C'est du fer tout à fait métallique. Et là, ben vous voyez, c'est rouge, c'est du fer oxydé. Et ça, ce sont des dépôts qui font parfois des milliers de mètres. C'est-à-dire que la vie de la planète a été complètement bouleversée. Non seulement des organismes sont disparus, mais en plus, plein de fer a été extrait de l'eau. L'eau, qui était riche en fer ferreux, en fer dissous, elle ne laissait pas très bien passer les rayons du soleil. Dans la mesure où le fer précipite, tombe au fond, l'eau est beaucoup plus claire. La lumière vient beaucoup plus auprès des organismes qui sont photosynthétiques, et eux peuvent se développer. Là, ils disent qu'ils ont beaucoup plus de lumière, donc ils se développent beaucoup mieux. Et le système s'emballe. Vous voyez ? Donc que la vie change le fonctionnement de la planète, ben, ce n'est pas tout à fait d'hier. Voilà, là, ici, c'est une autre photo. Vous voyez, ça peut être épais. Alors, ça fait des bandes, comme ça. Alors, ici, ça a été un peu plissé. Mais ça fait des bandes parce que, tout simplement, il y a des moments où le fonctionnement, il y a beaucoup de production d'oxygène, et puis le fer précipite, je vais dire, pur sucre. Puis, à d'autres moments, ben, le fer est un peu sous forme d'oxyde. Ce n'est pas du fer, c'est... sont des oxydes de fer et pas le fer métallique qui se dépose, d'où les bandes. Ça veut dire que ben, ça enregistre, je ne sais pas si ce sont des saisons, si ce sont des cycles de Milankovitch, mais en fait, ça enregistre un fonctionnement cyclique de la planète. Donc l'Anthropocène, oui, comme air au sens vernaculaire, c'est-à-dire on dit l'air néolithique, voilà. Quel air on vit, enfin, on a changé d'air, on a changé d'air. Alors, pas comme air géologique et même pas comme série. Donc, c'est une question sociétale, oui. C'est une question géologique, non. Ça, c'est mon interprétation. Je ne vous dis pas que c'est la vérité. Parce que si je vous disais que c'est la vérité, alors je ne suis plus un scientifique. En science, il n'y a pas de vérité. Il n'y a que des moments, des systèmes cohérents, à un moment donné, en prenant en compte tous les éléments. Donc, alors on a dit aussi, ça peut-être vous en avez entendu parler ce week-end, donc l'anthropocène, ça vient de anthropos, qui est l'homme. Alors on dit aussi, c'est l'homme, il est tellement nombreux, parfois on dit il y a tellement de technologies qui modifient tout, parfois on dit il est tellement nombreux que forcément il modifie tout. Mais alors est-ce que c'est le nombre d'hommes, ou sa technologie, ou est-ce le système économique qu'il a mis en place, par exemple au milieu du 19e siècle? Alors on revient à l'augmentation de CO2. C'est la révolution industrielle. Mais la révolution industrielle, s'il est industriel, c'est qu'on change aussi de système économique. Parce qu'à partir de là, ben on utilise, il faut faire des sous pour pouvoir se développer, pour embaucher. Donc la priorité, c'est qu'il faut se faire des sous. Et ben aujourd'hui, la priorité, il faut faire venir des quartzophyllades de Chine, parce que là-bas, les petits Chinois, ben, s'ils se laissent exploiter, c'est tant pis pour eux, mais ça coûte moins cher. Hein. Et puis, il y a moins de normes de gestion des carrières écologiques, etc. Donc c'est là-bas. Et une fois, j'en parlais à une photographe qui veut qu'on fasse un travail ensemble. Je lui ai dit, oui, c'est ce genre de pavé, on l'exploite à Erki, on le fait plus, on le fait venir de Chine. Elle a dit, ah, c'est bien ça. J'ai dit, oui, c'est bien, pourquoi? Elle a dit, du point de vue écologique, ouais, c'est bien pour Erki, mais l'écologie, c'est pas à Erki, c'est global. Et donc, on utilisait... aujourd'hui, si on utilisait des carriers à Erki, ils auraient un mode social d'un certain type, ils auraient des contraintes environnementales d'un certain type, tout ça qu'ils n'ont pas en Chine. Et en plus, d'Erki, si on les fait venir à Poitiers, c'est pas bien loin, hein, on traverse la Bretagne et c'est bon. Là, ça vient de Chine, mais pas que. Ça vient de Chine en bateau, en Anvers. Là, c'est des gros, gros blocs. En Anvers, c'est déchargé. Ces gros blocs vont être taillés en montagne noire, pour être plus utilisable. Ces blocs de montagne noire vont en Allemagne, où là, ils sont façonnés, soit sous forme de petits pavés, soit sous forme de bordures de fenêtres ou d'évier, etc. Et là, d'Allemagne, c'est vendu dans toute l'Europe. Mais regardez, rien qu'en en utilisation d'énergie, ces blocs-là, ils ont fait 16 000 km. Au lieu de faire, je ne sais pas combien, Erki, d'ici, allez, 300 km. À la louche. C'est l'ordre de grandeur, quelques centaines de kilomètres. De l'autre côté, c'est des dizaines, enfin, j'exagère, c'est 15 à 16 000 kilomètres. Vous voyez, donc, du point de vue écologique, ben, non, ce serait mieux que ce soit à Erki. Mais aujourd'hui, ce qui prime, c'est ça vient de très loin, ça coûte cher en énergie, mais ce n'est pas grave parce que, in fine, le pavé est moins cher. Donc, est-ce que ce n'est pas ça qui fait que, ben, on a changé de système? Donc, est-ce que l'Anthropocène n'est pas un changement de système économique? C'est une question que je vous pose. Je ne suis pas seul. Hein. La question a été posée depuis... C'est un étudiant suédois qui avait utilisé dans sa thèse le mot capitalocène. Parce que, bien sûr, il faut parler de scène, hein, il faut être moderne. Et donc, il disait, c'est un changement, on est rentré dans une économie capitaliste où il faut absolument... La priorité, c'est faire des sous pour pouvoir... Hein, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le ruissellement. Hein, c'est ça. Et donc, est-ce qu'on n'est pas avec un changement de système lié à ça? Merci. Alors, le jeu, maintenant, c'est les questions, c'est ça?
Alors, dites-nous, est-ce qu'il y a des questions?
Ou des critiques?
Un échange, c'est ouvert. Donc. Alors, hop, j'ai bien...
Je voulais juste demander pourquoi on s'acharne à trouver une date précise pour le début de l'Anthropocène, potentiellement, alors que les grandes crises qui ont jalonné, enfin qui ont permis de définir les aires, bah, c'est sur des échelles de milliers d'années. Et pourquoi on cherche autant à vouloir préciser le début de l'Anthropocène ?
Bonne question. Bonne question. Ah, il faut le micro, pardon. Oui. Pardon. Bonne question. Parce que, effectivement, aujourd'hui, on dit, ah oui, mais on est à quelques années près, ça ne va pas. C'est pas synchrone. Mais il est vrai que la limite Carmo-Trias, on n'est pas à quelques années près. Il y avait peut-être des siècles de différence. Sauf que, justement, on était il y a 250 millions d'années. Vous avez vu sur les échelles récentes là, qui avaient été montrées, en haut, il nous parlait de milliers d'années ou de centaines d'années. Donc, plus c'est récent, plus il faut que ce soit précis. Parce qu'avant, il ne faut pas espérer l'avoir à 2 ans près. C'est impossible. Et même parfois à 2 millions d'années près. Bon, j'exagère un peu. Mais enfin, plus c'est loin, plus la fourchette est grande. De la même façon que j'avais commencé tout à l'heure en disant « Qu'est-ce que vous faisiez ?» Je ne sais pas si à vous, je vais dire « Tiens, à vous. » Hier, à cette heure-ci, il peut me répondre à 10 minutes près. Mais si je lui demande « Il y a 10 ans », ben, il va me répondre à quelques jours, voire quelques mois près. Et donc, c'est normal, c'est la fourchette de temps, c'est ce qui avait été souligné tout à l'heure aussi. Un fossile, on distingue, c'était combien la différence entre les zones d'ammonite à Thouars
là ?
Une centaine de milliers d'années. Merde, pourquoi je disais ça ? Oui, il avait dit, donc, avec les fossiles, c'est une centaine de milliers d'années, alors que, avait-il précisé, sans doute parce qu'il est mauvaise langue, alors que, avec la radiochronologie, c'est des millions d'années. Oui, parce que souvent, avec la radiochronologie, on dit... On a mesuré l'âge par méthode radiocarbone de autant. D'abord, on n'a pas mesuré l'âge, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a mesuré un rapport isotopique. Mais comme c'est une mesure chimique, dans toutes les mesures physico-chimiques, il y a des incertitudes. Et généralement, même sur l'échelle des temps, vous pouvez voir, il y a des plus ou moins. Et donc, ce qu'il faut considérer, ce n'est pas le chiffre, c'est la fourchette complète. Donc, voilà, bon, toujours est-il pour dire que plus c'est récent... plus les fourchettes doivent être précises.
D'accord.
Ai-je répondu ?
Oui, mais est-ce que ça vaudra toujours ce que ça vaut dans 10 millions d'années d'avoir une date précise du début de l'Anthropocène ? Ou si c'est une fourchette, c'est aussi relativement par rapport à ce qu'on a déjà ?
C'est bien, vous êtes jeune, de parler dans 10 millions d'années. Oui, moi, je n'ai pas cet optimisme-là.
Je peux répondre peut-être à cette deuxième partie. Je suis d'accord avec vous, en fait. Je trouve que dans toute cette histoire, on n'a pas le recul de la géologie. Et donc, on s'acharne à vouloir définir, là, maintenant, une époque sans savoir ce qui va advenir réellement. Et définir une époque pour 67 ans ou 400 ans ou 4000 ans, qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle des temps géologiques ? Et donc, effectivement, les géologues, dans 1 million d'années, s'il y a encore des géologues, et je l'espère... Eh ben, est-ce qu'ils vont avoir les moyens de dire « Ah oui, mais c'était en 1967 ». C'est très clair, hein, parce que les marqueurs qui sont utilisés, qui sont proposés par Waters et ses copains, c'est le plastique. Donc le plastique, quelle est la durée de vie dans les couches géologiques ? Ça m'étonnerait que ce soit en millions d'années. Le pic de radioactivité... en 1964, mais c'est principalement du carbone, un excès de carbone 14. Le carbone 14, ça dure 50 000 ans de détection. Et après, c'est terminé. La demi-vie est tellement faible, de l'ordre de 5 000 et quelques années, que vous n'avez plus de quantité mesurable au bout d'une cinquantaine de milliers d'années. Donc ça veut dire qu'à l'échelle des temps géologiques, les critères qui sont choisis, là, ne vont pas fonctionner. Alors, ce qu'il a proposé... Il a dit, ouais, pour faire une coupe, pour avoir un stratotype de l'Anthropocène, on a plein de solutions. Alors, il y a un grand papier en 2016 où il liste toutes les possibilités. Et il conclut en disant, en gros, mais la meilleure possibilité, c'est la glace. Et c'est ce que je vous ai montré pour l'Holocène. Alors, pour les couches de glace qui correspondent à l'Anthropocène, dans une carotte glaciaire au Groenland, on est dans des épaisseurs de quelques centimètres. Il ne vous aura pas échappé qu'il y a un petit réchauffement climatique en ce moment et que la glace n'est peut-être pas la chose la plus pérenne dans des conditions comme étalon. Donc qu'est-ce qu'on va conserver de l'Anthropocène allez, même dans 5000 ans, je ne suis pas sûr qu'il en reste grand-chose pour un truc qui est à peu près de l'épaisseur du trait. Quand on vous montre l'échelle des temps, on est dans des épaisseurs... allez, si on prend l'étage du Piazancien, je crois qu'il est le premier étage du Pliocène, l'Anthropocène. Dans ce qui a été défini pour l'Holocène cet été, on est dans des durées de l'ordre de 4000 ans. Ça représente 0,2% d'un étage normal, entre guillemets, du Cénozoïque. Donc on est dans des durées infimes. Et donc là, moi aussi, j'ai un peu de mal à voir la logique.
Ma question devient un peu obsolète parce que vous avez répondu en partie. Mais quand même, j'aimerais savoir... vous, en tant que géologue, qu'est-ce que ça vous inspire, ce qui est en train de se passer en ce moment ? Comment ça va s'inscrire dans les aires géologiques ? Quelles sont les évolutions possibles ? Et je ne parle pas seulement de l'espèce humaine, de la vie, bien sûr, mais aussi l'impact sur la géologie en général. Si vous avez une réflexion à ce sujet-là.
Alors, l'impact sur la géologie, je ne sais pas bien répondre à ça, parce que après ça dépend de ce qu'on appelle la géologie. Ça a un impact sur l'environnement ? Oui. Est-ce que l'environnement, c'est la géologie ? Je ne suis pas convaincu. Parce que la géologie, c'est l'ensemble du système Terre, et du noyau à la surface. Actuellement, on touche au vernis de la planète. On le modifie, hein, bien sûr, ça, je suis d'accord. Mais... est-ce que c'est géologique ? Je ne sais pas. Moi, c'est que personnel, j'ai tendance à dire non, ce n'est pas géologique. Ça ne modifie pas la tectonique des plaques. Or, la tectonique des plaques, ça a été évoqué tout à l'heure, les grandes crises du monde vivant sont souvent liées à des positions de plaques. Quand les plaques sont regroupées, c'était la Pangée qui a été évoquée. Il y a peu, hein, la majorité de la biodiversité aujourd'hui est à la limite entre l'océan et le continent. Donc, quand c'est un grand continent, mais la périphérie est beaucoup plus faible que quand les continents ont éclaté, parce que vous faites la périphérie de chacun des morceaux, et ça augmente de beaucoup. Et là, par hasard, ben, la biodiversité augmente. Donc vous voyez, ça c'est de la géologie. Mais l'environnement seul, mais c'est peut-être que ma vision de la géologie, pour moi ça c'est pas de la géologie, ça modifie en rien le volcanisme, ça modifie en rien les subductions, les vitesses horizontales, à ma connaissance. Je n'ai pas bien répondu à votre question, hein. Je le vois. Non, mais vous avez raison. Moi, je ne sais pas répondre.
Je peux compléter, peut-être. Je peux vous proposer des images, même, pour essayer d'apporter un complément. On va voir. Bon, alors, vous faites référence à ce qui se passe là, j'imagine. C'est-à-dire que là, c'est des différences de température au cours des 40 dernières années à peu près, par rapport à la température moyenne globale. Vous avez une partie qui est en dessous de la moyenne et puis une partie qui est au-dessus de la moyenne parce que vous avez un accroissement de la température. Donc vous avez un changement climatique, vous avez un réchauffement climatique global. Et c'est fortement corrélé avec cette courbe-là qui est la courbe du dioxyde de carbone. Okay, cette courbe du dioxyde de carbone, elle a évolué au cours des temps géologiques. Vous savez que c'est un gaz à effet de serre. Et donc, plus il y a de dioxyde de carbone, de CO2 dans l'atmosphère, plus il fait chaud. Et donc là, vous avez la courbe des températures sur les 400 derniers milliers d'années. Et vous voyez une très bonne corrélation entre les deux, forcément, puisqu'il y a un rapport de cause à effet. Et puis, vous avez ce pic de dioxyde de carbone. Ma courbe est un peu vieille. En fait, on est par là maintenant. Donc, vous savez qu'il y a... d'après les rapports du GIEC, mais c'est connu par ailleurs, vous avez ce fort impact des activités humaines qui provoque tout un tas de phénomènes. Là, on n'est toujours pas dans des processus d'ordre géologique, mais on peut avoir quand même des remontées océaniques, des remontées des niveaux marins, des phénomènes extrêmes relativement forts, des modifications de paysages, et puis vous avez des pertes de biodiversité. Alors, tout le monde a entendu parler des ours polaires qui sont en train de disparaître. Et effectivement, ils ont perdu beaucoup d'entre eux à cause de la fonte des glaces, puisque c'est un milieu qui est nécessaire pour eux pour survivre. Mais c'est loin d'être les seuls changements à l'heure actuelle, puisque une bonne partie des changements qui impactent la biodiversité ne sont pas climatiques, pas directement, mais sont des choses qui sont liées aux activités humaines, la surpêche, la mauvaise exploitation des terres, les pesticides, la déforestation, etc. Et du coup, vous avez tout un tas de bestioles, comme celles-là qui nous sont proches et qui nous sont chères, qui s'effondrent complètement. 80% de pertes au cours des 75 dernières années chez les grands singes. C'est absolument dramatique. Bon, je passe là-dessus. Donc, résultat, on se pose la question, est-ce qu'on arrive dans une phase d'extinction de masse, comme il y a eu à la fin du Crétacé, comme il y a eu à la fin du Permien, ce dont je vous ai parlé. Et donc, les taux d'extinction relevés dans la nature actuelle sont très nettement supérieurs aux taux d'extinction enregistrés en général dans une période géologique où il ne se passe pas grand-chose. Donc, ça serait plutôt oui. Alors, je vous l'ai dit, ces crises environnementales, elles ont souvent plusieurs causes. Ce sont des crises qui peuvent être causées par les êtres vivants eux-mêmes. Alors, c'est le cas pour ce qui se passe maintenant. C'est le cas pour ce qui s'est passé pour la crise d'oxydation avec le fer rubané, etc. On a peut-être la même histoire pour le Dévonien, j'y reviendrai si ça vous intéresse. Bon, la récupération peut être très longue, donc il peut y avoir un vrai impact en termes de fossiles et de diversité faunique retrouvée dans les couches géologiques du futur. Donc je parle de choses qui n'existent pas. Au passage, c'est dangereux pour les organismes dominants, parce qu'ils sont en haut des pyramides trophique, et donc quand la pyramide se casse la figure, ceux qui tombent d'en haut, eh ben, ils se font plus mal que ceux qui tombent d'en bas. Et ces crises, d'une manière générale, elles ont façonné complètement le vivant. On ne serait pas là s'il n'y avait pas eu une conjonction de météorites, de volcanisme, de bas niveau marin à la fin du Crétacé. Sinon, il y aurait toujours des dinosaures. Il y en avait eu pendant 170 millions d'années avant, et il y en aurait encore aujourd'hui des dinosaures, pas version oiseau, mais version T-Rex. OK ? Et qu'est-ce que ça veut dire par rapport à notre question ? Si on prend le recul de la géologie et si on essaye de calculer ce qui va se passer dans la tête d'un géologue dans 1 million d'années, est-ce qu'il va se dire « ce truc-là a commencé en 1964 » ou « en 1784 » ou « en 1610 », qui est une autre date proposée dont on pourra discuter, qui n'est pas plus bête que les autres. Ou alors il va se dire bah, finalement tout ça, ça a commencé avec l'extinction de la mégafaune à la fin du Pléistocène. Mégafaune d'ailleurs en large partie exterminée par nos ancêtres qui n'étaient pas capitalistes. Mais bon, mais c'est pas forcément une défense du capitalisme hein, que je suis en train de faire. Hein, mais on pourra en discuter. Il pourrait se dire aussi, mais non, mais c'est bien bon sang, mais c'est bien sûr, c'est pendant le néolithique. Puisque on domestique les plantes, les animaux, et on déforeste, et ça fait des changements majeurs. Sauf que ces processus-là, on vous l'a dit, c'est pas des processus qui marquent une période, un événement très précis, mais c'est sur des périodes de temps relativement longs. Et donc, c'est moins bon que l'apparition d'Indeodus parvus à la fin du Permien en termes de datation, en termes de précision, alors que c'était il y a 252 millions d'années, Indeodus parvus. Et donc, en fait, on pourrait se poser la question, est-ce que cette crise d'extinction qui a commencé là, ou il y a 200 ans, est-ce que c'est vraiment le marqueur pour une nouvelle époque ou une nouvelle ère, ou est-ce que c'est juste la fin de quelque chose ? Et en fait, quand on vous parle d'Anthropocène, c'est un petit peu comme si vous mettiez dans la tête d'un dinosaure il y a 66 millions d'années et qui dit « Tiens, tout est en train de se dérégler, on se prend des machins sur la figure qui nous viennent du ciel, on n'arrive plus à respirer ». Mais c'est bon sang, mais c'est bien sûr, c'est l'ère des dinosaures. On va appeler ça le dinosaurocène. On est à peu près dans cette situation-là. Donc, avec le recul du géologue, on est peut-être à la fin d'une ère, mais on n'a pas encore trouvé le marqueur du début de la prochaine. Donc, je pense que c'est prématuré.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Pardon, la question, pardon, j'arrive.
Bonsoir. Concernant le climat, je sens qu'il y a des points de vue différents, voire des querelles de chapelle entre des climatologues, des mathématiciens. Là, on est plus centré sur une approche avec des paléontologues. Mais de ce que j'entends sur des émissions scientifiques à la radio, plutôt France Culture, la tendance à parler d'anthropocène, c'est plus pour caractériser une période effectivement très très récente où les humains ont le pouvoir de détruire la plupart de la vie. En tout cas, ont maintenant le pouvoir de détruire ou de mettre fin à la vie humaine sur Terre. Il y a 10 000 ans, les humains avaient à peu près l'impact sur la Terre des fourmis ou du chien-dent. C'est plus du tout le cas maintenant. Et moi, je l'entendais comme ça avant votre intervention. Après, savoir s'il faut baptiser ça comme ça, j'ai entendu même l'ère des chéquitus ou des gaspillos humanus, enfin bref, il y a toute la déclinaison possible. Mais il me semble que c'est quand même dans l'histoire de la Terre, même si on est un millième de seconde par rapport à un calendrier de l'année que vous présentiez, on est dans, là nous sommes dans une, deux ou trois générations où on peut tout bousiller de l'avenir des humains et de pas mal d'autres espèces animales et végétales. Et c'est pour cela que je trouve ça intéressant. Ça peut être un espèce d'outil de parler de l'anthropocène, un outil d'interpellation sur quelle est la responsabilité individuelle d'habitants, citoyennes, citoyens, la responsabilité d'entrepreneurs, la responsabilité de femmes et d'hommes politiques à très court terme. Parce que il y a des gens du GIEC il y a un mois qui disait on a 2-3 ans de sursis pour vraiment réorienter le système économique social au niveau planétaire. Là, le rapport du GIEC est sorti mardi, ou je ne sais plus quand, oui, enfin, qui vient de sortir. Je le trouve encore relativement câlin pour les décideurs, mais peut-être trop câlin. Un ministre a démissionné récemment en disant mais c'est pas possible de continuer comme ça. Et je trouve que la contradiction. Enfin, il y avait une bonne nouvelle aujourd'hui, c'était que la croissance française est revue à la baisse. Pour moi, c'est une bonne nouvelle que les pronostiqueurs économistes disent ben, la croissance française ne serait que de 1,7%. Mais manque de peau cet après-midi à l'Assemblée nationale a été votée. Une loi, une politique pour favoriser le développement de l'emploi adaptable, pour favoriser la croissance. Comme si la croissance allait... Enfin, il y en a qui y croient encore, apparemment. La croissance.
Oui.
Voilà. Je ne sais pas s'il y a des remarques.
Oui, je peux répondre rapidement, si vous voulez. Sur 2-3 points. Vous dites qu'il y a des querelles entre scientifiques. Ben, je dirais heureusement, parce que sinon, ils ne sont plus scientifiques. Ce qui me gêne, c'est que vous dites querelle de chapelle. Ça me gêne par contre beaucoup. Parce que qui dit chapelle dit dogme. Ça veut dire qu'ils ne discutent pas. Ils ont un échange d'opinions. Ils s'engueulent et puis c'est tout. Ça ne fait pas avancer le tirelipote. Alors que quand des scientifiques discutent entre eux, ils défendent des arguments. Ils essaient de faire valoir leurs arguments. Donc vous voyez ça. Querelle, je trouve ça bien. De chapelle, je ne trouve pas ça terrible. Ensuite, le danger de l'humain pour l'humain. Mais je crois qu'on est tous d'accord. Oui, nous sommes un danger pour nous-mêmes. Je crois que ça a été dit très clairement. Donc, mais là, ce n'est pas le mot anthropocène ère géologique qui est en jeu. Qu'on utilise le mot anthropocène, et ça, vous l'avez très bien dit, pour un aspect, je veux dire, sociétal, puisque c'est un mot à la mode, hein, ou politique, ça mérite d'être utilisé. Mais... ce n'est pas une raison pour dire que c'est une ère géologique. L'homme se met en danger, nous sommes d'accord. Et moi, je suis très pessimiste. Le troisième point, écoutez, j'ai oublié.
Voilà, une dernière question.
Je peux répondre aussi rapidement à ça. Effectivement, on a pas dit qu'il n'y avait pas de problème et que donc... tout allait bien et que donc l'Anthropocène n'était pas nécessaire. On n'est pas d'accord avec le fait d'en faire une période géologique parce que c'est certainement un problème de présomption de l'humanité, d'hubris, je dirais, de vouloir à nouveau s'introduire au centre du jeu. Alors, Copernic nous avait expliqué que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Darwin nous avait expliqué qu'on était un petit bout de la biodiversité et qu'on faisait partie de la même grande famille que tous les autres êtres vivants sur la planète. Là, on a un petit groupe de géologues qui veulent être les nouveaux Copernic, peut-être, je ne sais pas. Surtout de géochimistes, et qui ont décidé que, appuyés par tout un tas de gens dans la société, qu'on allait remettre l'humain au centre du jeu. Et c'est ça qui est grave et qui est dangereux par rapport à la période qu'on vit, de ne pas comprendre qu'on n'est pas au centre du jeu et qu'on est juste en train de faire n'importe quoi et de menacer la survie de notre espèce. Parce que c'est clair, notre espèce, comme toutes les autres espèces, est vouée à disparaître un jour ou l'autre. Soit elle se transformera en autre chose, soit elle s'éteindra sans descendant. Mais c'est les deux seules sorties possibles. Alors autant faire que ce soit le plus tard possible. Mais le problème de dire l'Anthropocène maintenant, c'est que ça peut être quelque chose d'absolument contre-productif. Et je m'explique. Il y a un paléontologue extrêmement célèbre en France, et vous savez tous qui c'est, il s'appelle Yves Coppens, avec qui j'ai plein de points d'accord, mais avec qui j'ai un point de désaccord quand il raconte la chose suivante. Pour lui, l'anthropisation du monde, ça coule de source, et c'est dans l'ordre des choses, et il ne faut pas s'en offusquer, et tout va bien. Et il dit, c'est comme si on revenait à l'époque du Silurien ou de l'Ordovicien, et qu'on trouve que c'est une honte que toutes ces bestioles et toutes ces plantes se mettent à grimper sur la Terre et à coloniser les continents qui étaient très beaux parce que c'était des masses uniquement minérales et qu'il y a toute cette vie un peu suintante, un peu gluante qui vient se coller là-dessus et qui gâche le paysage. Alors ok, si on part de ce point de vue-là, l'anthropisation c'est très bien, le prochain stade c'est quoi? C'est l'intelligence artificielle qui saura se régler le problème de l'humanité. Référence Terminator. J'exagère un peu, mais globalement, je pense que le message envoyé par le terme anthropocène n'est pas bon. On arrive dans un mur, c'est pas le moment de nommer ça une nouvelle ère de l'humanité. C'est là où, moi, personnellement, ça me pose problème, parce qu'effectivement, je suis également extrêmement pessimiste.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être gay. Hein,
parce oui, que c'est
bon, justement.
Exactement. Ouais. C'est pas pour ça qu'il ne faut rien faire non plus. Hein.
Il y a un dernier point, le troisième point que j'avais oublié tout à l'heure. C'était la biodiversité diminue. Moi, je ne suis pas sûr de ça. Il y a beaucoup d'espèces qui disparaissent. Ce n'est pas synonyme. Beaucoup d'espèces qui disparaissent, mais les écologues, certains écologues, et par exemple le président du comité de la commission scientifique de l'Agence française de la biodiversité. Vous voyez, c'est pas l'ivrogne du bistrot d'à côté. D'après lui, il se demande si la biodiversité n'est pas en train d'augmenter. Il ne nie pas qu'il y a des espèces qui disparaissent. Il y a plein d'espèces qui disparaissent, mais il y en a aussi plein qui apparaissent. Donc, la biodiversité est en train de changer. C'est pas moins grave, hein. C'est pas moins grave, parce que là-dedans, parmi les espèces qui sont dans la charrette, nous, je crois qu'on est près du timon. Là. Donc, l'espèce humaine est en danger, mais pas la biodiversité, pas la planète Terre. Nous sommes en danger. Mais, alors, tout à l'heure, il vient de souligner l'aspect de mettre l'homme au centre, c'est vrai. On a parlé tout à l'heure du quaternaire. Ça avait été créé au début. Le quaternaire, ça s'était appelé l'anthropozoïque. Ça montrait bien. C'est maintenant que nous, c'est qu'on est là, ça vaut le coup de distinguer cette période de où il y a l'homme de avant où il n'y avait que des animaux, rien quoi. Et donc après on a dit, bon, il ne faut quand même pas exagérer, et puis il y avait les glaciations, et puis les humains sont apparus de plus en plus vieux, donc bon, il était mieux de faire primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire, puis après on a dit quaternaire, ah ben oui c'est les glaciations, puis après c'est unique dans l'histoire de la Terre, Manque de bol, on s'est aperçu qu'il y avait des glaciations à l'Ordovicien, qu'il y en avait encore eu des beaucoup plus grandes avant, etc. Ça ne marchait plus. Donc, l'ère quaternaire a été supprimée. Ça, c'était, sauf erreur de ma part, 2004 ou 2008, au congrès géologique de Florence. Et des géologues s'insurgeaient en disant, mais quand même, comment vous rendez compte? Quand même, l'essentiel du travail qui est fait sur cette planète, ça se fait dans des sédiments que l'on datait du quaternaire, ne plus utiliser cette subdivision, c'est un non-sens, blabla, blabla. Et puis, bon, c'était à Florence où on avait célébré le principe de superposition des couches. Le Norvégien, qui a terminé curé. Non, mais c'est pas un détail, parce qu'à Florence, il y a eu une grand-messe avec le pape qui est venu pour célébrer. Ça veut dire que même chez les scientifiques, parfois, il y a un mélange du religieux. Mais ils ont le droit, c'était pas dans le centre du congrès. C'était dans la grande église d'à côté. À Florence, il y a des belles églises. Et voilà, et il y a eu des concerts, etc. Donc, mais le nom, Sténone. Et voilà, donc, c'est pas indépendant tout ça. Et c'était surtout ceux qui avaient tendance à être religieux qui ont dit, c'est inacceptable de ne pas avoir le quaternaire. Et donc, le quaternaire avait été disparu comme R, puis il est revenu, je vous l'ai dit après, je vous l'ai montré, c'est redevenu comme une série. C'est-à-dire, on a quand même essayé de le remettre. Sauf qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur, bon, on sait quand il termine. Il n'est pas terminé, on est dedans. Mais quand il commence, ça a été souligné par nous deux, on ne sait pas bien quand ça commence. C'était avant le Gélasien ou après le Gélasien. Et ça a mis... Donc ce débat sur le quaternaire a duré 27 ans. Ça veut dire que l'homme, il a beau faire, il est nombrilocentré et il ne peut pas s'empêcher de se centrer dans toutes ces réflexions. Je veux dire, c'est humain. Mais on n'est plus dans la science. Et moi, ça, je trouve ça un petit peu... À la fois, je le comprends et à la fois, je le regrette parce que je dis, non, d'une pipe, on n'arrive pas à... Mais il y a une publicité il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu la grippe aviaire. Et puis, donc, un gros problème, grippe aviaire. Puis après, on a cherché à nous rassurer parce que, soyez rassurés, le problème de la grippe aviaire est un problème, je cite exactement, est un problème typiquement animal et devrait le rester. Non, mais c'est fantastique pour nous rassurer. Il nous dit, c'est typiquement animal, donc nous, on n'a plus rien à craindre. Mais c'est aujourd'hui, ça, c'était il y a quoi, il y a 5 ans, je ne sais plus, je l'ai. Mais c'est fantastique, mais on se met au centre du système, on ne peut pas s'empêcher. C'est comme s'il y a les animaux et puis nous, donc il y a les plantes, les animaux et les hommes. Alors que nous-mêmes, quand on se regarde, moi, vous me voyez, moi, ça, je m'amuse, là, parce que ça, j'adore ça. Ça me donne le tournis. Ça, c'est ma main. À moi, ce n'est pas la tienne. C'est ma main à moi. Eh bien, elle est faite avec mes... disons que moi-même, je suis fait avec N cellules de moi, avec mon code génétique. Mais avec ça, vivent 10 N cellules de bactéries et 100 N cellules de virus. C'est-à-dire que ma main à moi, je ne suis que 1/111 de moi-même. C'est intéressant, ça. Alors, au début, je dis quand même, je ne suis pas grand-chose. Ah si, je suis quelque chose... Si je fais une bêtise, tchac, 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 je donne mes empreintes digitales et la police va dire « Ah ben ça, c'est bien vous ». Oui, mais ça, c'est pas moi du tout. Parce que les cellules qui ont laissé ces empreintes, elles laissent les mêmes empreintes aujourd'hui, mais ce n'est plus les mêmes cellules. Parce qu'on se renouvelle à peu près de son poids par an. Donc, qu'est-ce qui est stable en moi? Ma carte d'identité. Parce qu'on se renouvelle. Et on n'est qu'une petite partie de soi-même. Ça, je trouve ça merveilleux. Au début, ça m'a donné le tournis, je vous l'ai dit. Mais vraiment, hein. Puis après, j'ai trouvé ça merveilleux parce que je me suis dit, ben, en fait, on est un écosystème. On croit être un individu, animal ou peu importe, mais on est d'abord un écosystème. Et vous faites un abus de... Moi, ça m'est arrivé quand j'étais jeune, plus jamais, bien sûr, maintenant. Un abus de boisson, par exemple, le lendemain, ben, vous êtes malade, c'est-à-dire que l'écosystème est déréglé. Ou alors, plus simplement, on a une bonne maladie, on prend beaucoup d'antibiotiques. Quand ça va mieux, on doit prendre des machins pour rééquilibrer la flore intestinale, parce qu'il faut rééquilibrer l'écosystème. Réfléchissez ça, vous verrez. On comprend mieux, on va regarder une prairie et on va se sentir proche de la prairie, parce que nous-mêmes, on n'est qu'un écosystème. C'est merveilleux, la vie. Donc, profitons-en, parce que c'est vrai qu'on n'en a plus pour quelques millions d'années.
Restons positifs. Voilà, écoutez... Il est 22h30, c'est l'heure habituelle où on termine nos conférences. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, vous pourrez les poser individuellement. Merci à nos trois intervenants. Voilà, c'était très enrichissant. Merci à tous d'être venus. Bonne fin de soirée. Et puis, j'espère à bientôt. N'hésitez pas. Il y a un train du climat qui passe en gare de Poitiers vendredi. Donc, n'hésitez pas sur le réchauffement climatique.